Bienvenue à Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante.
Cette semaine, grand honneur pour nous de recevoir Patrick Sénécal, un auteur légendaire au Québec. On pourrait un peu dire que c'est le Stephen King du Québec.
Certains disent
ça. quelqu'un de, justement, de légendaire qu'on voulait vraiment rencontrer, qui était sur notre liste depuis le début du podcast. Quelqu'un avec qui on voulait parler. Puis ça a été par la bande, il a fallu qu'on passe par son fils, toutes sortes d'affaires pour se rendre jusqu'à lui. Il est venu avec plaisir, puis il a eu beaucoup de plaisir, ce qu'il nous a dit après, justement, qui a trippé. On a parlé cinéma, on a parlé littérature beaucoup, on est allé en profondeur dans ses œuvres, dans sa psychologie à lui, dans le phénomène des films, des livres d'horreur, tout ça.
Ouais.
Juste une discussion des plus passionnantes. Moi, j'ai vraiment adoré, puis c'est un de mes podcasts préférés qu'on a fait ici.
Ouais, on vient tout juste de finir le tournée, puis je suis encore un peu
sous le choc
de la conversation qu'on vient d'avoir. Pour vrai, j'espère que vous allez aimer ça autant que nous. J'ai même pas envie de rien plugger, on dirait. Laissez-nous des commentaires ajoutés à la conversation. Abonnez-vous à notre chaîne. Si vous voulez, vous pouvez nous supporter sur Patreon, mais principalement, j'aimerais ça que vous portiez une attention particulière à la conversation qui va suivre. Donc, bon podcast.
Bonne écoute.
C'est parti.
Yes.
C'est une des conversations que, depuis qu'on a commencé le podcast, j'ai le plus hâte d'avoir.
Ah, mon Dieu.
Vraiment.
Je suis flatté.
C'est un honneur, un réel honneur de te recevoir chez nous.
Merci.
Pour vrai, c'est t'es une figure marquante pour le Québec en général. Puis je pense qu'on t'a pas entendu assez souvent t'exprimer par rapport à ton parcours, par rapport à ton... À la façon avec laquelle tu abordes l'écriture, mais non seulement ça, mais la façon avec laquelle tu es capable de te séparer un petit peu de tes histoires, la façon que tu es capable de ne pas entretenir l'espèce d'image du poète maudit qui vit dans un chalet pour écrire de l'horreur. Là.
Ouais.
Puis ça, je crois que c'est quelque chose qui est ultra intéressant, puis j'ai juste hâte de tomber dans le vif du sujet.
Parfait, on va tout démystifier ça.
La première fois que je t'ai vu, c'était à Tout le monde en parle, parler en entrevue. Et je me rappelle m'être dit, Grim, chose qui détonne réellement entre cette personne-là et son œuvre.
Tu parles en 2007 ou après ça, parce que je suis allé deux fois, 2007.
Ça devait être en 2007 quand j'étais au secondaire encore.
Ouais.
Je me rappelle m'être dit, il y a vraiment quelque chose qui détonne entre la personne que je vois devant moi puis ce que j'ai lu de cette personne-là. Puis j'ai toujours trouvé ça fascinant. Est-ce que c'est quelque chose que activement, t'es conscient de?
J'en suis conscient parce que le monde me le dit, mais je cultive pas ça. Je suis pas quelqu'un qui se dit là, faut que je. Parce qu'en général, les écrivains, quand ils veulent cultiver une image, ils cultivent l'image qui va avec ce qu'ils écrivent.
Ouais. Mm-hmm, exact.
Donc, si je voulais me préoccuper de ça, je serais plutôt dark. Je me donnerais un look gothique. J'aurais des vêtements très sombres un peu, bon. Fait que non, en fait, c'est des gens qui ont... Parce que moi, j'ai toujours été un gars qui aime rire, qui aime rigoler, un gars qui n'est pas très préoccupé par son look et tout ça. Donc, quand j'ai commencé à écrire, puis mes premiers romans étaient pas... Je ne suis pas devenu quelqu'un de connu du premier coup. Tu sais, il y a des écrivains qui deviennent connus du premier roman, puis après ça, ben là, c'est difficile de rester à la même place.
Ouais.
Moi, ça a monté tranquillement. Fait que comme ça montait tranquillement... La popularité puis mon ce que je projetais aux gens est venu tranquillement aussi parce que je me suis pas fait connaître du premier coup dans la rue des salons du livre. Quand je suis devenu pas mal connu, ben le reste a pas suivi. je me suis pas dit bon là faut que tu fasses attention, t'es rendu connu. Fait que moi je voyais pas la nécessité de changer, je restais le même gars, je disais bon. Et c'est dans les salons du livre que de plus en plus des gens commençaient à me dire plus que j'étais connu, plus qu'ils venaient me dire « Ah, on s'entendait vraiment pas à ça. » je me rappelle les premières fois que je me suis fait dire ça dans des salons du livre. Je m'en rappelle, c'est souvent des gothiques qui venaient me voir.
Ouais, qui devaient être les fans de...
qui sont des fans. Beaucoup de... Quand dans le salon du livre, là, à mon kiosque, je vois quelqu'un, un gothique, s'en venir avec un livre en dessous du bras, je me dis souvent... Je serais pas surpris qu'ils s'en viennent me voir.
Ils s'en viennent vers toi.
Ils s'en viennent pas voir une idée à côté.
Ouais. C'est ça. C'est souvent ça. Puis souvent, c'est Alice. Souvent, c'est le roman Alice aussi.
Ah ouais?
Ouais. Pas pourquoi. Alice, pas gothique, mais c'est vrai que c'est... Je sais pas. C'est souvent Alice, en tout cas. Et puis il y en a un, je me rappelle, il s'est approché de moi, puis il mesurait, je pense, pieds trois, puis il avait les cheveux noirs jusque-là. Mais tu sais, il avait pas de l'air emo, là. Il avait de l'air dangereux, là. Il faisait peur, là, tu sais. Puis il était maquillé noir, puis il y avait des chaînes partout. Puis il s'approche, il me regarde, puis il fait « C'est toi ça, Patrick Sénécal? » J'ai fait « Oui, c'est moi. » Puis là, il a fait « Je m'attendais vraiment pas à ça. » Un peu déçu, quasiment.
Ouais,
je sais pas. Si j'avais dit que j'avais une blonde, des enfants, puis dans ce temps-là, je vivais en banlieue, je pense que ça serait sauvé en courant. fait que oui, c'est
j'ai
c'est,
un chien,
c'est...
je l'adore.
Ouais,
quoi?
C'est ça. Mais j'ai jamais voulu ça. Moi, ça me tente pas de jouer une game. Moi, mes games, j'y joue dans mes livres. Dans mes livres, là, je m'amuse. Là, je crée des... Dans ma vraie vie, j'ai pas le goût de créer une image, j'ai pas le goût de créer un Patrick Sénécal médiatique. J'ai le goût d'être moi-même, puis c'est tout.
Plus simple.
Alors, c'est plus simple. C'est pas... Il y en a qui disent « Ah, t'es bon de pas embarquer là-dedans. » Mais c'est pas d'être bon ou pas bon. Je trouve ça... c'est moi, puis moi, j'aime pas ça me compliquer la vie. J'aille me compliquer la vie pour mourir. Fait que de commencer à chercher tout ça, à penser à une image de marque, puis qu'est-ce que je devrais dire, puis qu'est-ce que je devrais alimenter. Je me trouve bien chanceux d'avoir du succès maintenant, parce que j'imagine que d'avoir du succès... Quelqu'un qui commence à écrire aujourd'hui ou qui veut devenir un acteur ou un chanteur ou une personnalité dans un milieu quelconque, avec les médias sociaux qu'il faut entretenir, avec toute cette image-là qu'il faut cultiver, ça doit être une job épouvantable. Je connais des jeunes auteurs ou des jeunes comédiens qui entretiennent des jeunes humoristes aussi, qui passent autant de temps sur les médias sociaux à entretenir
leur image.
le hook, parler de moi. Puis ils n'ont pas tant le choix que ça. Ils l'ont un peu, mais en même temps, ils me disent, tu sais, Patrick, si je fais rien, si j'entretiens pas ça, je vais être une goutte dans l'océan, là.
Ouais.
Moi, j'ai déjà connu, puis... Malgré ça, ma webmesse, parce que je ne m'occupe pas de mon site moi-même, je suis pas capable, je connais pas ça.
Ouais.
Ma webmesse me dit essaye de temps en temps de venir faire une petite apparition. Puis j'y vais de temps en temps, mais c'est pas naturel. Pantoute. Puis quand je le fais, je vois la différence. Je vois que le monde aime ça, puis que le monde en parle. Là. Mm-hmm. Fait que je me dis hey boy, ça doit être difficile aujourd'hui. Puis quelqu'un qui a pas le goût d'entretenir cette image-là, quelqu'un comme moi, trouverait ça tough en maudit aujourd'hui. Il doit trouver ça, puis il doit en avoir, là. Des gens qui n'ont pas le goût de jouer à ça, puis qui se rendent compte qu'ils n'ont pas le choix. Ça doit être bien difficile.
Tu parlais d'humoriste, on a reçu il y a quelques semaines l'humoriste Yannick Demartino, je ne sais pas si tu le connais. Puis il disait ça, tu sais, lui, son personnage de scène, justement, il est un peu, je ne sais pas comment le décrire, là, mêlé ou, tu sais,
un peu absurde.
Ouais.
Il parle un peu comme ça.
Ouais, exactement. Exactement.
J'aime bien lui, j'étais voir un numéro de lui sur YouTube, je trouve ça bien drôle, je trouve ça bien sympathique. Il a l'air un peu perdu tout le temps, là.
Il est super drôle, mais tu sais, lui disait justement les réseaux sociaux pour la santé mentale à Manis, c'est parce que là, tu fais des stories, là, tu te mets en scène, tu te filmes à chaque heure, à chaque deux heures, mais là, t'es tout le temps dans ton personnage, à un moment donné, ça devient schizophrénique.
Oui. Puis les écrivains, pour ça, on est quand même, on est privilégiés dans le sens que...
Vos personnages, c'est pas vous, peut-être?
Oui, puis les gens s'attendent pas à des... Quelqu'un qui aime un écrivain, il s'attend pas à le voir faire le clown, il s'attend pas à le voir en représentation physique. La France joue beaucoup avec ça, avec leurs écrivains, mais au Québec, beaucoup moins. Fait qu'on a quand même moins de pression là-dessus. Mais ça vient avec le fait aussi qu'un écrivain est souvent moins connu que... Ouais. Moi, je suis chanceux là, que d'être aussi connu, mais la plupart des écrivains sont jamais reconnaître.
Mais souvent, les livres sont plus connus que la personne.
Ben oui, c'est ça. Puis c'est mon cas aussi. C'est mon cas aussi. Mais bon, quand je dis mon nom des fois, comme l'écrivain, je vois, oui, comme l'écrivain, c'est moi l'écrivain. On s'entend que quand je me promène... c'est ça. Mais quand je me promène dans la rue, je ne suis pas assailli de fans. De temps en temps, quelqu'un me reconnaît, j'aime beaucoup ce que vous faites, des restaurants, c'est sympathique. Mais là, aussitôt que tu te penses un peu trop connu, un peu trop vedette, tu vas prendre une bière avec Claude Legault dans un bar, mettons. Ce qu'on a fait quand on a fait le film Les 7 jours Stallion, quand on était en promo, on sortait de temps en temps. Et là, tu sais, c'est quoi être une vedette, là?
Ça
ramène ton ego un peu plus bas, puis tu fais, bon, ça, c'est être une vedette. Toi, ta vie est tranquille, puis c'est bien correct de même.
Est-ce que tu crois que c'est encore possible d'avoir un certain succès sans entretenir une plateforme web? Mettons, quelqu'un qui débute maintenant, talentueux comme il peut être.
Faudrait, en tout cas, dans les autres milieux, en tout cas, le milieu d'humour, ça me semble compliqué. Mais pour l'écrivain, je pense que c'est encore possible. Je prends un gars comme Stéphane Larue qui a écrit Le Plongeur.
On en parle.
Stéphane, il a eu beaucoup de succès avec son premier roman. Mais c'est pas un gars qui... En fait, quand il va sur Facebook, c'est bien plus pour parler du Pélican, le bar qui est ouvert avec des chums. Mm-hmm. Il va faire des... Mais Stéphane...
Est-ce que c'est lui qui a ouvert la taverne du Pélican?
Oui. Ah, ouais. Avec certains de ses chums. Ils sont une couple là-dedans, oui. Stéphane, c'est un gars qui travaille dans les bars. Il a toujours aimé travailler dans les bars. Bon, il parle de ça dans le plongeur aussi, des restaurants, tout ça. Mais c'est pas un gars qui va aller beaucoup alimenter son image d'auteur, même qu'il ne trippe pas là-dessus. Et il y a quand même du succès, là. Fait ouais. que, mais bon, pour la suite des choses, va-t-il falloir qu'il soit un peu plus là-dedans? Je le sais pas. Faudrait que j'y en parle d'ailleurs de ça. Ce serait une discussion intéressante à avoir avec lui. Mais je pense que c'est quand même plus possible comme écrivain. Mais malgré tout, c'est sûr que j'en vois des jeunes écrivains qui s'arrangent pour aller faire des stories, puis qui s'arrangent pour entretenir ça. Puis je leur en veux pas. Comme je ne veux pas juger ça. Moi, c'est quelque chose que j'aurais de la misère à faire, même si j'étais un gars qui aime le théâtre, même si j'étais un gars assez show-off, je suis quelqu'un qui n'aille pas à être cabotin et tout ça, mais je vais le faire quand ça me tente, pas pour... Mais j'imagine que ça ne doit pas nuire, puis tant que ça ne prend pas, en fait, comment je dirais bien ça? Il ne faut pas que quand tu te lèves le matin, tu penses plus à ce que tu vas faire sur tes médias sociaux qu'au livre que tu es en train d'écrire.
Ça devient plus important, là, il y a un
décalage.
C'est ça.
Ouais, quand je pense que tu es plus nerveux parce que ça fait 3 jours que j'ai pas fait l'apparition sur Facebook, que ça te rend moins nerveux que de dire ça fait 3 jours que j'ai pas écrit mon livre. Là, je pense que si ça arrive de se débalancer comme ça, là, je pense qu'il y a un problème. Puis ton personnage est en train de prendre plus de place que ton pourquoi, en fait, tu veux faire ce métier-là. La vraie raison pour laquelle on veut faire ce métier-là, en tout cas. Si quelqu'un a plus de fun, si un écrivain a plus de fun à se mettre en vedette, ces médias sociaux, il devrait peut-être, changer changer de carrière. Ouais. On peut avoir du fun pareil, on peut trouver ça cool. Moi, quand j'y vais pour Alice, on a fait une couple de vidéos qu'on explique des affaires, puis là, il faut en faire un autre. Puis j'haïs pas ça. Comme je dis, je suis un gars qui est à l'aise devant une caméra. Je suis un gars, quand je vais à la TV, je trouve ça cool. Puis ce sont maintenant, il faut être capable de travailler avec ce médium-là. Ouais. Sinon, là, on est vraiment à côté de la traque. T'sais, les écrivains dark qui sont peurs de parler puis qui sont... Ça va être difficile pour eux autres aujourd'hui. Là. Ça, c'est clair. Mais il ne faut pas que ça prenne toute la place.
Ce décalage-là, justement, entre l'œuvre puis l'écrivain aussi. India, elle nous a conté des drôles d'histoires, justement, au Salon du livre, que... Si vous étiez ensemble, puis passiez tout ensemble, puis que souvent les gens étaient surpris de ce duo-là improbable, parce qu'au niveau des genres, on était aux antipodes.
Mais ça, c'est très drôle, parce que les gens ont encore, certaines personnes, là, je ne veux pas généraliser, mais certaines personnes ont tendance encore à associer beaucoup l'écrivain et son œuvre, dans le sens que si tu écris des livres comme ça, ben, tu es une personne comme ça. Donc, comme j'écris des livres dark, ben, je suis quelqu'un de très, très dark dans la vie, et India, comme elle écrit des romans jeunesse, ben, pas juste ça, mais elle s'est fait beaucoup connaître au départ pour ça, qui sont très optimistes, qui sont très qui sont beaucoup plus lumineux que les miens, qui sont plutôt sombres. Ben là, le monde pense qu'elle, dans la vie, est comme ça aussi. Puis c'est vrai qu'elle est comme ça plus que moi. C'est vrai que c'est une fille qui est plus lumineuse.
Tu te rapproches peut-être plus de son œuvre que
toi. On n'écrit pas les livres qu'on écrit pour rien. C'est évident que si j'écris les romans que j'écris, c'est parce que quelque part, j'ai une certaine... Je suis quelqu'un qui est un peu pessimiste par rapport à l'espèce humaine. Je suis quelqu'un
qui peut-être un petit peu.
Oui, tout à fait. Puis c'est sûr qu'India est plus positive que moi. Mais les personnes, les individus peuvent quand même se rejoindre là-dedans. Ça fait des bonnes discussions. Des fois, c'est India qui me montre, ben, gars, Patrick, des fois, il y a du bon dans vie. Puis des fois, c'est moi qui dis, India, gars, tu vois bien, là, comment le monde est, là. Puis bon. Puis on trouve un équilibre là-dedans. Puis ça fait des bonnes discussions. Puis ça n'empêche pas qu'elle, des fois, elle trouve le monde épouvantable. Puis ça n'empêche pas que je suis capable de voir les bonnes choses. Mais nous ne sommes pas que ça. Ouais. Des êtres humains se rejoignent aussi pour d'autres choses. C'est une fille sociable qui aime le monde, moi aussi. C'est une fille qui est très, très vraie. C'est une fille qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Puis moi, je suis comme ça aussi. Puis ça, on s'est reconnus là-dessus assez rapidement. On est deux personnes qui aimons l'humour, qui aimons rire, qui aimons faire rire, malgré ce que j'écris. Donc, tu sais, comme ma blonde, c'est une psychologue qui est méga humaniste. Moi, je pense que c'est la personne la plus humaniste que je connais au monde. Okay. C'est quelqu'un qui trouve que l'être humain vaut toujours la peine. C'est quelqu'un qui voit le meilleur en chaque personne.
Si on prend juste la thématique de tes œuvres, ça va un peu
ben oui, mais justement, elle, ce qui l'a attiré chez nous, c'est ce côté sombre-là, qu'elle voulait comment se fait qu'il y a du monde qui pense de même. Puis moi, ce côté lumineux-là m'aide tous les jours. Je veux dire, cette fille-là, je parle de ma blonde, a fait quelqu'un de moi, un meilleur être humain, je suis sûr. Fait que c'est important d'aller chercher chez les gens d'autres choses que... T'as tes amis qui te ressemblent qui amène d'autres choses, puis tu as des amis qui te ressemblent moins, mais qui t'amènent autre chose. Puis je pense que cet équilibre-là est important. Mais oui, moi puis India, quand on est ensemble, puis qu'il y a même des lecteurs qui nous lisent tous les deux, Ça, c'est encore plus drôle. Quand ils nous voient ensemble, ils sont bien, bien surpris. Mais moi, je leur dis, c'est surprenant que vous lisiez ces deux types de livres-là aussi. Moi, j'ai quelqu'un qui est venu me faire signer l'autre fois Le Vide, je pense, je ne me rappelle plus lequel de mes romans. Puis il y avait un roman de. Elle avait un roman de d'Enya Desjardins en dessous du bras. Je fais, tu lis du Patrick Sénécal puis du Enya Desjardins, c'est quand même spécial. Puis elle fait, ouais, c'est vrai. Hein? Fait que, tu sais, si des lecteurs lisent les deux genres de romans, ben c'est pas étonnant que ces deux auteurs-là peuvent aussi se retrouver. Moi, j'ai toutes sortes d'amis dans le milieu littéraire. Là. Et je lis pas tous mes amis. Ouais. C'est pas parce que c'est des amis que tu vois. Tu sais, India, je lirai pas là, les Aurélie Laflamme. Je suis pas le public cible. Ben non, je suis pas le public cible. Puis elle le sait, puis elle comprend, puis c'est bien correct comme ça. Fait que, puis j'ai d'autres amis aussi, puis là, je veux pas nommer personne pour pas. Je veux pas dire les gens que je lis pas. Ils savent que je lis pas, mais je veux pas le dire en nom. C'est pas important que les gens sachent que je lis pas. Mais il y a des gens que je lis pas parce que je sais que ce qu'ils écrivent va moins me toucher, mais c'est des gens qui, dans la vie, j'y trouve intéressant, sympathique, puis on a du fun ensemble. Puis il y a ces gens-là qui me lisent pas non plus, puis c'est bien correct, puis ils me font pas croire qu'ils me lisent. Puis fait que c'est pas parce que les livres, c'est une chose, l'amitié, les fréquentations, c'en est une autre. Des fois, les deux se rejoignent, puis des fois, c'est deux mondes complètement séparés.
Mmh. Ouais. Tu disais que ta femme est psychologue.
Oui.
Est-ce qu'elle essaie de comprendre d'où vient cette noirceur-là?
Ah, ben elle a des théories là-dessus.
Ah ouais, OK.
Oui, elle a des théories là-dessus. C'est sûr que. Comme elle m'a dit, elle, c'est sûr que au début, ça l'intriguait beaucoup parce qu'elle voyait bien qu'il y avait un clash entre le livre et le gars.
Parce que c'est depuis tout jeune, en plus, que vous êtes intéressé.
Oui, depuis que j'ai 12 ans que j'écris des affaires de même.
Ouais.
Puis elle m'a dit, écoute, c'est sûr que la noirceur qu'il y a dans tes romans, c'est sûr que ça vient de toi. Ça, je suis d'accord avec elle. On ne peut pas écrire quelque chose qui ne vient pas de nous, à moins d'être un ghostwriter puis écrire pour d'autres personnes puis que c'est juste de la commande.
Ouais.
Mais ça fait t'implique pas dans ces livres-là. C'est une commande, justement. C'est pas un livre où tu vas sentir l'âme de l'écrivain. Mais normalement, quand tu écris un livre, puis que c'est pas une commande, puis que t'es pas juste préoccupé par le succès du livre, ce que certaines personnes font, hein, cela dit, mais on les nommera pas. Mais normalement, quand tu mets vraiment ton cœur dans un livre, tu parles de toi par la force des choses, même si c'est par ricochet, même si c'est par métaphore, même si c'est par... Moi, je pense qu'un auteur qui écrit sérieusement un roman qui a deux planètes qui se font une guerre intergalactique, je pense qu'il y a quelque part, il parle de lui quand même.
Il y a des personnages dans cette guerre-là.
Exactement. Il y a des thématiques, il y a des résolutions qui parlent de sa vision du monde.
Des valeurs qui sont véhiculées.
Des valeurs, etc. Ouais. Exactement. Fait que, puis des fois, même malgré toi.
Ouais.
Même sans t'en rendre compte, des fois. Fait que moi, je pense que ma blonde, elle a bien vu ça en disant la noirceur dans tes romans, au départ, il faut que ça vienne de toi. Donc, arrête pas d'écrire, en fait. Continue à écrire
parce que je veux pas que ça s'accumule. Ben ça fasse un trou
d'exercice. C'est sûr que, comme elle a dit, je pense pas que tu serais un gars dangereux si tu n'écrivais pas, mais je serais sûrement quelqu'un de beaucoup plus déprimé, plus déprimant, plus pessimiste encore.
Ouais.
Parce que, bon, je suis un peu pessimiste, mais en même temps, je suis quelqu'un qui aime la vie, je suis quelqu'un qui j'ai eu des enfants, tout ça, c'est parce que je veux bien y croire. C'est plus du cynisme que du pessimisme, là, mais en fait. Mais donc, elle dit. Il y a valeur d'évacuation, il y a valeur de catharsis là-dedans, il y a même valeur thérapeutique jusqu'à un certain point. Ici, dans la vraie vie, justement, j'aime tant avoir du fun, mais j'aime tant rigoler, puis que je me tiens avec Enya Desjardins, puis du monde lumineux.
Ouais.
C'est sûrement parce que, justement, cette noirceur-là, je la sors dans mes romans. Et l'autre théorie qu'elle a aussi, c'est tu parles sûrement de tes peurs dans tes romans.
Mm.
Consciemment ou non, elle a l'impression que tu parles de tes peurs. Puis le roman te donne l'illusion du contrôle. En tout cas, tu as l'impression que le temps de roman, tu peux contrôler et tu as le dessus, cette peur-là. Tu réussis à... Parce que parler d'une peur, d'un certain côté, c'est la contrôler et c'est la combattre jusqu'à un certain point.
Mm-hmm.
Il y a des romans que, consciemment, je sais qu'elle a raison. Un roman comme Contre Dieu, c'est sûr que ça parle de peur. Les Sept Jours du Stallion aussi. Le vide, une peur, ou en tout cas un constat d'un certain vide de notre société.
Les Sept Jours du Stallion, ça vous est venu après la paternité?
Ça m'est venu quand j'ai eu ma fille. Il y a eu ça d'un côté, et de l'autre côté, il y a eu aussi le fait que j'étais écœuré de voir des films américains qui montrent que la vengeance est une bonne idée. Tout ça. Ils en font un par semaine, un film de même.
Ouais.
Puis bon, ces deux idées-là ensemble, qu'est-ce que je ferais si on faisait mal à ma fille? Et est-ce que l'humain est si simple que ça? C'est-à-dire qu'il se venge, puis tout va bien après, puis il n'y a pas de problème? Ouais. Alors, c'est deux idées-là ensemble.
C'est une dichotomie extrêmement intéressante.
Ouais, c'est ça que je voulais, c'est de ça que je voulais parler. Fait que donc, oui, j'ai vécu sûrement... Le roman que je suis en train d'écrire en ce moment, ça parle consciemment aussi de ma peur de la mort. Moi, je suis un gars qui a peur de la mort.
Okay.
Puis je trouvais qu'il était temps pour un auteur comme moi, qui a plein de monde qui meurt dans ses livres tout le temps, mais qui n'a jamais vraiment confronter la mort comme la grande finalité, puis comment j'appréhende ça, ben, je pense que c'était le temps de... Puis là, tu vois, encore une fois, je me dis peut-être que si je parle d'une de mes peurs, ça va être une façon de dealer avec, une façon de la dompter un peu, une façon d'approcher l'ennemi, le regarder dans les yeux, puis essayer de faire la paix jusqu'à un certain point avec ça. Ça
peut servir. L'ignorer, c'est jamais la solution, là, j'ai l'impression.
Ben écoute, je veux pas juger les gens. Tout le monde deal avec ses peurs comme il veut. Il y en a qui l'affrontent, il y en a qui a fui. Anyway, tu peux... Comment, jusqu'à quel point tu peux fuir une peur? Elle est là.
Ouais. Faut que tu apprennes à vivre avec.
Oui, en fait, c'est ça. C'est comment tu fais pour vivre avec. Puis il y en a qui trouvent plein de moyens. Ben, moi, manifestement, c'est l'écriture. D'autres, ça peut être la lecture. Mm. Parce que des gens qui me lisent peuvent aussi affronter des peurs en me lisant. Ça marche des deux côtés, ça. Pourquoi les gens aiment tant les sensations fortes? Pourquoi les gens aiment mes livres? Parce que c'est une question. Qu'est-ce qu'on aime d'aller lire dans ces histoires-là aussi noires, aussi sombres, aussi pessimistes?
C'est une excellente question. Est-ce que tu as une piste de réponse? Qu'est-ce qui fait qu'on aime voir ça? Qu'est-ce qui fait que les films d'horreur, les livres d'horreur, les livres de genre, en fait, sont quelque chose qu'on recherche activement, même si, tu sais, moi, admettons, je regarde un film d'horreur, ça me fait pas me sentir bien, mais il y a une espèce de... Il y a quelque chose qu'on recherche dans ça.
Oui, ben je pense que les gens ne cherchent pas toutes la même affaire. Il y a des gens qui cherchent uniquement le gore, qui cherchent, ils aiment voir des scènes très, très, très sanglantes. Ça, je pense que c'est le côté... Puis je dis pas ça, je dis ça sans aucun jugement de valeur, mais c'est le côté kid, le côté enfant du spectateur qui est tout énervé de voir du sang qui revole.
Les effets spéciaux.
Oui, puis un gros plat d'un œil crevé, puis une cervelle qu'on ouvre. Puis moi, je trouve pas ça très intéressant personnellement. Mais quand j'étais kid, j'aimais ça. Je trouve que c'est le côté immature de l'horreur qu'on va chercher le cerveau le reptilien là, qui tripe de voir ça, mais qui implique aucune émotion. Parce que ce que tu devrais voir quand tu vois quelqu'un se faire ouvrir la tête ou ouvrir le ventre en gros plan, ça devrait t'écœurer. Ouais. Mais souvent, les gens qui aiment ces films-là, ce que ça fait, c'est qu'ils trouvent ça cool. Alors, on voit que c'est là où on est au premier degré de voir le plus de sang possible et que c'est pas très émotivement impliquant. Moi, ce que j'aime le mieux dans l'horreur ou dans le. Et ce que certaines personnes aiment aussi, c'est le côté. Explorer son côté sombre, en fait. Le côté sombre de l'être humain puis aller voir. Et pourquoi on aime ça? Ben, c'est parce que on sait que ça existe. On veut approcher ça, mais approcher ça dans la vraie vie, c'est dangereux. Là, on le fait de manière sécuritaire. C'est comme la montagne russe. Tu fais un tour de montagne russe, t'as peur, mais tu sais que t'arriveras à rien. Mm-hmm. Tu sais que normalement, la traque lâchera pas, puis que normalement, tu devrais pas continuer tout droit. Puis bon. Alors, lire un livre à sensations fortes, c'est un peu ça. C'est que oui, tu vis des émotions fortes, tu vis des émotions que dans le quotidien, tu ne vis pas normalement.
Ouais.
Et là, tu les vis par procuration à travers un livre. Et ça peut être juste le côté ludique, le côté thrill. C'est ouf, il ne m'est rien arrivé, heureusement. Ça, c'est côté montagne russe. Mais si, puis j'ai certains de mes romans qui ne sont que ça, que c'est juste une bonne ride de montagne russe. Ouais. Mais il y en a d'autres qui aussi, en même temps qu'une ride, on essaie d'explorer des choses un peu plus enfouies au fond de nous, un peu plus notre inconscient, notre côté sombre, la bête en nous qui sommeille. Puis je pense qu'on a toute une bête qui sommeille, puis que dans le pas des cas, elle ne surgira jamais, puis tant mieux. Mais je pense qu'on peut aller l'explorer par procuration. Et ça, c'est démontré, c'est un effet de catharsis. La catharsis, c'est de vivre des émotions fortes par procuration, sortir le méchant dans nous. Et ça, c'est comme ça depuis que le monde est monde. Je veux dire, le théâtre grec servait à ça. Le théâtre grec dans l'Antiquité, ça racontait des histoires de meurtre. Bon, c'était moins graphique, évidemment, mais on racontait des histoires de meurtre, d'inceste terrible pour sortir notre catharsis. On allait voir des gens se faire manger au cirque de Rome live. Ouais,
on allait voir des gens s'entretuer.
Des gens s'entretuer, des gladiateurs qui se tuaient, tout ça. On a eu des exécutions publiques jusqu'au début du 20e siècle où tu peux aller voir des pendaisons sur la place publique ou de la guillotine. Tout ça venait sortir tout ton méchant. C'est comme une vidange d'huile. Tu sors ta vieille huile,
un changement d'huile
que tu fais, que tu projettes sur quelqu'un d'autre. Et comme maintenant, dans la vraie vie, on efface de plus en plus les traces de violence, de vraie violence, et ce qui est correct aussi, mais notre besoin de catharsis est encore là quand même, et c'est la fiction qui prend le relais. C'est pour ça que la fiction est devenue si violente, parce que faut qu'on l'évacue quelque part, cette violence-là, puis la fiction sert à ça. Puis moi, personnellement, si mon fils a à choisir entre regarder un film d'horreur, ben gore, ou d'aller voir des gens s'entretuer dans une arène.
Mais oui.
J'aime quand même mieux, oui, j'aime quand même mieux qu'ils regardent un film.
Définitivement.
Certains vont dire que justement cette violence-là va faire sortir le méchant, faire sortir quelque chose, puis d'autres. On entend des fois l'argument aussi de dire que ça va influencer.
Ouais, c'est pas vrai, ça.
Ouais,
c'est ça.
Pas vrai, ça.
Ouais.
Parce qu'il y a assez d'études qui ont été faites là-dessus. Il n'y a pas vraiment de débat. Je veux dire, c'est, si le monde s'informe un peu, ils vont se rendre compte que c'est pas vrai. Moi, j'ai parlé à assez de psychologues dans ma vie, dont ma blonde, puis d'autres, avec ce que j'écris. J'ai eu des tables rondes avec des psychologues. Hein?
Bon, probablement.
Je me rappelle pas d'un psychologue qui a dit « Littérature d'horreur, littérature violente peut être dangereuse. » Je me rappelle pas de ça. Sauf s'il y a un encouragement à la violence. C'est ça. Mais ça, c'est comme n'importe quoi. C'est comme évidemment, quand quelqu'un écrit un livre dans lequel il dit, écoutez, prendre un couteau pour aller tuer son voisin, ça fait du bien puis c'est le fun.
Ouais.
Bon, là, c'est un peu... Quoique même si quelqu'un écrit ça, la plupart, le commun des mortels va lire ça puis va faire... Ça n'a pas de sens. Même ceux qui aiment la violence puis le sang, ils vont faire... Voyons, ça va contre le code moral commun. Je veux dire, la plupart des gens sont d'accord que de tuer des gens, c'est pas une bonne idée. Alors, si quelqu'un de normal lit un livre violent, il va juste éprouver le dégoût, la répulsion ou le plaisir de catharsis, mais qui sait que, bon, dans la vraie vie, ça n'a pas de sens. Et un psychopathe qui va lire ça, ben il est déjà psychopathe. Un livre ne rendra pas fou. Un livre ne va pas te donner des idées. Oui, je sais que, par exemple, à Columbine, il y a eu la tuerie, les deux jeunes qui ont été tués, ils ont tué 12 personnes dans leur école, je pense. On a découvert que la semaine d'avant, ils avaient écouté le film de Matrix une douzaine de fois. Puis quand ils sont rentrés dans l'école, il y avait des longs côtes de cuir comme dans The Matrix.
Il écoutait Marilyn Manson aussi, je pense.
Il écoutait Marilyn Manson, c'est ça. Et là, on a dit, ah, ça y est, on a des responsables. C'est la faute de The Matrix, c'est la faute de... Mais combien de personnes ont vu The Matrix dans l'univers?
Combien de personnes ont écouté Marilyn Manson?
C'est ça. Puis il y en a combien là-dessus qui ont tué du monde à cause de deux? Ouais. On s'entend-tu que ça n'avait pas été Marilyn Manson ou The Matrix, ça aurait été autre chose. Et ces gens-là étaient perturbés. À un moment donné, ils auraient pu voir n'importe quel truc, puis ça leur aurait donné une idée. Il y a un petit gars de 8 ans, quand Superman est sorti, le premier Superman en 1978, je pense, là, celui qui a plein d'effets spéciaux, pas bon, là, mais qui est drôle pareil. Il y a un petit gars de 8 ans qui a grimpé sur le toit de sa maison et s'est piqué en bas en disant avec sa cape, Superman, il est mort. Est-ce que quelqu'un, à cause de ça, va prétendre que le film Superman est un film dangereux?
Mm-hmm.
Je veux dire. Dans quel état était cet enfant-là au départ? Comment ça se fait qu'il n'a pas compris à 8 ans qu'est-ce qu'il faisait sur le toit de sa maison aussi, premièrement? Fait que, tu sais, il y a plein de questions comme ça. Alors, le livre, une œuvre d'art ne transforme pas quelqu'un en ce qu'il n'est pas. On veut prétendre ça, là, parce qu'on aimerait bien ça, savoir qu'une œuvre d'art change le monde. Moi, je suis un peu sceptique là-dessus. L'art s'adresse souvent aux gens qui sont déjà convaincus de ce que tu veux dire. C'est rare que ça va. Ouais, je pense que oui, malheureusement. Je pense que ça peut aider du monde qui sont en questionnement. Ça peut amener des gens à se poser des questions. Mais je veux dire, je pense pas que quelqu'un qui est sur le point de tuer l'assassin de sa fille va lire mon livre, va faire ah non, c'est pas une bonne idée finalement. Mais je pense que oui, ça peut amener des réflexions, ça peut amener des discussions. Puis les discussions, c'est ça qui peut amener les gens à changer. Ça peut avoir un impact comme ça. Mais si l'art transformait le monde à ce point-là, je veux dire, depuis le début des temps, il y a eu bien plus de films d'amour que de films d'horreur.
Mm-hmm.
Puis le monde ne s'aime pas vraiment mieux.
Le monde ne s'aime pas plus.
C'est ça. Alors, si mes livres d'horreur influençaient les gens à devenir méchants, pourquoi les films d'amour n'influencent pas les gens à devenir amoureux?
Ouais.
Ça peut pas marcher juste d'un bord. Mm-hmm. Fait que moi, là, j'ai fait la paix avec ça, l'idée que je peux donner des idées aux gens. Je pense que des maniaques peuvent me lire, mais c'est pas moi qui les ai rendus maniaques.
Ouais, c'est pas une idée que je défends non plus.
Mais t'as raison, c'est quelque chose qu'on me demande souvent.
Je pense que vous avez raison. Mais est-ce que néanmoins, ça vous est arrivé que l'interprétation d'un lecteur, mettons que vous rencontrez au Salon du Livre ou n'importe où, puis la conclusion qui sort d'une de vos œuvres soit pas votre intention?
C'est
une bonne question.
Mais tu sais, mettons qu'on prend justement, je reprends l'exemple des 7 jours du Talion, que tu disais tantôt que c'était pas, ça glorifiait pas la vengeance, puis le but du livre, c'est pas de dire faut absolument se venger dans des cas comme ça. Mais peut-être que ça a déjà arrivé, quelqu'un arrive, puis moi je le comprends, puis il a bien fait, j'aurais fait pareil.
Ouais, mais en fait, c'est ça, mais il y a une nuance là-dedans qui est intéressante, c'est que, il y a des gens qui viennent me voir qui me disent. Le 7 jours du Talion est un exemple parfait pour ça. Il y a des gens qui viennent me voir puis qui me disent. J'ai eu ton roman, puis au début, j'étais d'accord avec le père de famille, puis là, je savais plus trop. À un moment donné, c'était une bonne idée ou pas de venir, puis ça fait réfléchir. Moi, ça, quand j'entends ça, je fais all right, c'est ça que je voulais.
Exact.
Je veux que le monde réfléchisse, pose la question. Mais en même temps, je suis conscient que je peux pas diriger. Bon. Puis donc, il y a des gens aussi qui viennent me voir, puis qui me disent ouais, je comprends ce que tu voulais dire, là, mais moi, j'aurais tué pareil.
Mm-hmm.
Et ça, c'est correct aussi, dans le sens que. ils ont compris ce que je voulais faire.
Ouais.
C'est ça, tu sais, les gens peuvent comprendre et pas être d'accord. Et ça, c'est le privilège du lecteur. C'est le privilège du lecteur. Parce que je veux pas être un moralisateur non plus. Je veux pas dire, ceux qui sont pas d'accord, vous êtes des écœurants, vous avez rien compris. Tu sais, j'aurais pu faire un livre beaucoup plus dichotomique que ça.
Ouais,
c'est ça. Bon, j'ai de la misère avec le mot. j'aurais pu faire quelque chose qui est beaucoup plus polarisant. Pas polarisant, mais beaucoup plus tranché en disant...
Noir et blanc.
Écoutez, ceux qui sont contre ceux qui sont pour la vengeance, vous êtes des écœurants, de trous de cul qui n'avaient rien compris. Puis ceux qui sont pour la vengeance, je veux dire, et ceux qui sont contre, ben vous avez tout compris. Moi, je l'ai montré que le père de famille, il se pose la question, puis il finit par faire le choix de ne pas le faire, mais pas parce qu'il est fin puis il a tout compris, parce que c'est en train de le tuer par en dedans. J'ai montré que c'est un risque qui arrive, mais je ne l'ai pas montré complètement que ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, ouais, c'est ça. Réfléchissez à ça.
Ouais.
Fait que moi, que des gens disent « je comprends ce que tu veux faire, mais je suis pas d'accord », correct, parce que moi, j'ai un film qui me dit « les bons, c'est eux autres, puis ils sont récompensés, puis les méchants, c'est eux autres, puis ils sont punis ».
C'est trop simple.
Mais c'est trop simple. Mais en même temps, t'as toujours une opinion comme auteur, t'as toujours... L'objectivité absolue, j'y crois pas. T'écris un livre, t'as quand même une intention tout le temps. Fait que... Mais par contre, j'avais écrit « Sergio Stallion » en disant il s'est vengé, puis il a bien fait, puis on devrait se venger. Puis quelqu'un était venu voir, il avait dit « Je suis d'accord avec toi, tu veux montrer que le monde se venge, t'as raison.
Ouais. »
Ça m'inquiéterait plus.
Ouais.
Comprends-tu?
Ouais.
Mais qu'on n'est pas d'accord avec moi, c'est correct. Le lecteur a la liberté aussi de croire ce qu'il veut. Là.
C'est ça, moi j'ai toujours pensé ça. La minute que l'œuvre quittait l'auteur, elle appartenait à la personne qui se la procurait.
Oui.
Puis souvent on voit des créateurs, pas nécessairement en littérature, mais aussi en cinéma, qui font des entrevues vraiment longues et extensives sur qu'est-ce qu'ils ont voulu dire dans le livre, puis quel était le chemin à emprunter. Puis j'ai jamais trouvé que c'était la façon d'aborder l'art en général.
Oui, je suis assez d'accord. Moi, je pense qu'il faut laisser... Bon, là, on peut dire ce qu'on voulait faire un peu, gars, j'ai le fait que les échos de Talion, mais si tu donnes un guide d'emploi avec chacun de tes livres, chacun de tes films, là, ça devient un peu un problème parce qu'il me semble que le spectateur, le lecteur peut... D'ailleurs, il y a un réalisateur, Michael Haneke, qui refuse toujours d'expliquer ses films, toujours, toujours. Ça, c'est un peu frustrant parce que des fois, j'aimerais ça qu'ils expliquent.
Quel film il a fait?
Caché, il a fait Amour aussi, il n'y a pas longtemps. Il a fait un film
Le Ruban Blanc.
Le Ruban Blanc. Il a fait un film terrible, un des films les plus horribles que j'ai eu dans ma vie.
Funny Games,
exactement. Il a fait une version américaine, mais la première version, c'est sa version autrichienne, c'est ça? C'est un Autrichien. Qui est un film terrible, terrible. Puis là, j'ai acheté un livre d'entretien avec lui. Là, j'étais bien énervé, puis j'ai commencé à le lire un peu. Mais il dit comment il travaille, il parle des thèmes qu'il veut aborder, mais aussitôt qu'il demande, oui, mais dans ton film, là, quand il y a telle scène, là, quand il y a telle... Puis lui, il aime ça, mettre des scènes floues, là, que c'est pas clair. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, il refuse systématiquement de répondre à ça. Puis c'est correct. Je me dis, c'est correct. Oui, on aimerait bien ça, le savoir des fois, mais il dit... Il a une confiance absolue à l'intelligence du spectateur.
C'est ça, exact.
Puis il veut que... Il dit, oui, j'ai une intention, mais en même temps, dans la vraie vie, on assiste à des trucs, des fois, une même scène, puis tout le monde va l'interpréter différemment. Ben, il dit, c'est un peu ça que je veux faire. Évidemment qu'il y a une intention dans le film. S'il n'y a pas d'intention, ce serait plate. Mais non, il n'y aura pas de mode d'emploi précis pour chaque... Comme à la fin de Caché, justement... Le fils, il y a deux jeunes qui vont se parler à l'école, deux personnages importants. On les voit de loin, ils se parlent. Puis le film finit comme ça. On n'arrête pas de demander qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire, est-ce qu'ils sont en train de faire la paix, ce qui s'est passé. Là, je ne vais pas trop en dire parce que ceux qui n'ont pas vu le film.
Ouais.
Ou est-ce qu'ils sont en train de dire mon écœurant, je vais me venger. Puis Haneke répond ce que vous voulez. Puis j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il a dit aux acteurs.
Ouais.
Il leur a-tu dit, dites telle affaire ou telle chose? Ou il leur a dit, dites ce que vous voulez?
Ouais.
Je sais pas. C'est bien, bien spécial, ce mystère-là qui entoure son œuvre, mais ça la rend
assez intéressant. Tous ces films sont super forts. C'est un genre de... Je trouve que c'est un genre de Stanley Kubrick moderne, là, que chaque œuvre est différente et super forte.
Oui, puis Kubrick n'aimait pas trop non plus parler de ses films.
Tu vois,
David Lynch n'aime pas parler de ses films non plus.
Mais parlant de fin énigmatique, la fin la plus énigmatique du cinéma, c'est probablement la fin de 2001, tu sais, de l'espace. Puis les gens spéculent encore sur qu'est-ce que ça veut dire.
La séquence la plus weird au monde.
Mais moi, j'ai mon interprétation. Pour moi, 2001, c'est l'homme qui rencontre Dieu.
Ça, je suis curieux, complètement passionné d'entendre ça.
C'est tu rencontres Dieu. C'est l'homme qui rencontre rencontre Dieu. Okay. Moi, je pense que ce film-là, c'est l'être humain qui rencontre son créateur. Je pense que la fameuse monolithe,
ouais.
C'est la création absolue. C'est Dieu. Dieu comme on l'est. C'est pour ça que c'est un carré noir, parce que Dieu, on le voit comme on veut. T'sais, on le voit soit comme le Dieu barbu qui, bon, ça, c'est une image qui, moi, me plaît pas du tout, mm-hmm. ou on le voit juste comme une espèce de force. Sans pensée, sans volonté, mais qui est une force créative absolue de l'univers.
Mm-hmm.
Puis c'est neutre, c'est noir, c'est profond, tu peux te perdre là-dedans. Et à la fin, le personnage, quand il rentre dans la stage, puis là, il devient un fœtus qui flotte à côté de la Terre, je pense que quand tu rencontres Dieu, on s'entend Dieu, là, c'est un symbole, mais il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de... Tu deviens le tout total. Et moi, je pense, c'est pour ça qu'à la fin, il vieillit, rajeunit, bon, il se voit à toutes les étapes, à toutes les possibles êtres de sa vie. Alors, on tombe dans la grosse philosophie, là, mais je pense qu'il faut le prendre de même. Si on cherche un sens plus précis, plus matériel que ça, je pense qu'on fait fausse route. C'est l'homme qui rencontre Dieu, mais qui se rencontre lui-même. L'homme qui trouve le sens de la vie, mais qui ne peut pas nous être révélé parce qu'il faudrait nous-mêmes rentrer dans le monolithe pour le comprendre. Moi, je trouve que c'est un film extraordinaire. Mais c'est pas un film facile dans le sens que c'est très, très long. Il y a des passages dans l'espace, là, ça dure là, 10 minutes là, que tu vois avancer. C'est un film extrêmement contemplatif. C'est une œuvre d'art autant à regarder qu'à... Faut regarder ça bien relax dans son salon puis se laisser porter. Faut le voir sur un écran géant. Voir ça sur un écran d'ordinateur, c'est absurde. Pour moi, c'est complètement absurde. C'est
dans
un film
dans
qui
l'ère
doit...
Netflix. Là,
ben, c'est ça. Faut que ça t'envahisse. Faut que t'ailles un cinéma maison. Faut que t'ailles. Moi, je suis chanceux, j'ai tout ça chez nous.
Avec
là,
la musique,
moi, je suis maniaque de cinéma. Fait que je me suis arrangé pour voir mes films dans des conditions optimales.
Ouais.
Avec le son, avec le. Et ce film-là prend du sens là. Prend du sens quand il est envahissant parce que. Où tu rentres là-dedans, comme les personnages rentrent là-dedans aussi, puis c'est l'espace, c'est l'infini, c'est bon. Fait que oui, mais c'est pas un film... tu peux pas dire, bon, regarde-tu 2001 à soir, en mangeant du popcorn avant d'aller prendre une bière. C'est pas ça, là. C'est pas cette ambiance-là, pantoute.
Non.
La séquence de voyage... je sais pas comment qu'il l'appelle, interstellaire.
Psychédélique un peu.
Ah oui, psychédélique. Ça, c'est un peu long. Ça, c'est un peu long.
Dans un cinéma maison, ça doit être capoté complètement.
Ça, je pense que ça dure 6 minutes, là, cette trip-là. Bon, en 1970, c'était peut-être une bonne idée. Aujourd'hui, ce passage-là, là, j'avoue que je le passe quand je le regarde un peu. Je fais câline que c'est long, ça. Ça, c'est vraiment,
vraiment
long. Une
fois que tu l'as vécu une fois.
Alors que tous les autres passages dans l'espace, quand ça prend son temps avec la musique, ça me dérange pas. Je suis complètement abandonné à cette ambiance-là. Mais le passage psychédélique, là, on dirait qu'il découvrait les nouveaux effets spéciaux qui sont payés à la traite. On peut couper en 2 minutes facile.
Ce film-là a tellement révolutionné science-fiction, parce qu'avant ça, c'était Star Trek ou c'était...
Oui, puis c'était il y a du son dans l'espace. Remarque, on fait encore ça, là, les films ont encore du son dans l'espace. Je pense que c'est le seul film de science-fiction au monde.
Probablement le plus réaliste.
Il doit en avoir un autre. Qui dit que dans l'espace, il n'y a pas de son. Tout va lentement. Bon. Puis c'est tellement. Les effets spéciaux, on dirait que c'était fait hier.
Ça a tellement bien vieilli.
C'est hallucinant comment c'est bien fait.
Il n'y a plus. Une fois que tu vois 2001, puis que tu sais que tu assimiles le film, fait que maintenant que tu le vois deux fois, là, puis que tu comprends les mécaniques, pas juste l'histoire, mais tu comprends les mécaniques cinématographiques du film, il n'y a plus un film de science-fiction qui n'a pas pigé quelque chose dans 2001.
T'as pas le choix.
Tu peux même pas imaginer Interstellar sans 2001, c'est l'espace.
Ben c'est ça. Et tu vois qu'Interstellar a voulu rendre hommage. Parce qu'il y a des passages qui n'ont pas de son aussi. Tu vois que oui, il y a un hommage à... Il a fait ses devoirs, là, le réalisateur. Ça, c'est clair.
Mais est-ce que tu es un fan de science-fiction? Aussi, parce que la science-fiction, c'est un autre genre que t'as...
Je suis pas si fan que ça, parce que c'est... Comment je dirais bien ça? La science-fiction, c'est difficile, la science-fiction, à aller, puis les auteurs de science-fiction sont toujours un peu déçus et surpris que les gens en lisent pas tant que ça. Mais c'est pas étonnant, parce que il faut que, non seulement tu découvres une histoire... Tu découvres un monde.
Ouais. Mm-hmm.
Ou tu découvres un monde. T'sais, je parle pas de science-fiction. Bon, la science-fiction qui se passe des voyages intergalactiques, c'est moins pire parce que c'est quand même assez près de notre réalité actuelle.
Ouais.
Mais la science-fiction où tu inventes d'autres planètes, d'autres mondes, d'autres civilisations, ou même sur la Terre, mais dans 2000 ans, où on a tout installé. C'est beaucoup de stock à assimiler pour quelqu'un qui veut comprendre des émotions de personnages, de la psychologie. Et beaucoup de science-fiction, pas toutes, là, avant que mes amis qui lisent la science-fiction m'envoient des tomates, m'envoient des emails ou je sais pas quoi. Il y a de la science-fiction. Ben, l'horreur aussi, remarquez, ce que je vais dire là s'applique à l'horreur aussi, mais la science-fiction, il y a beaucoup d'auteurs de science-fiction qui prennent tellement de temps. C'est des cerveaux, hein, ceux qui écrivent ça souvent. Des cerveaux. Puis ces cerveaux-là, souvent, s'intéressent beaucoup à la construction de leur monde, à tout le côté, comment dire, très précis de la mécanique de
le côté technique.
Oui, puis, et le côté aussi très, très philosophique des questionnements, mais souvent très froidement. Très, très froidement, avec des personnages qui n'ont pas beaucoup de vie, qui n'ont pas beaucoup d'émotions, qui n'ont pas beaucoup d'inside, qui sont juste, dans le fond, des archétypes de la pensée de l'auteur, mais qui n'ont pas de crédibilité comme individu pensant, aimant, avec de chair et d'os. Et bon. Alors, ça fait souvent, dans les mauvais cas, en tout cas, dans les cas de science-fiction moins intéressantes, ça fait des romans très froids. Et Asimov, c'était un génie, la science-fiction, mais c'est fret en tabarnouche.
C'est froid.
C'est vraiment fret, là. Fait que, et avec le temps, les gens ont voulu de la science-fiction qui a aussi de la chair et du sang et de la sueur et de bon, il y en a qui les réussissent très bien, cela dit. Il y a des auteurs de science-fiction qui réussissent ça. Mais il y en a qui les réussissent moins bien, puis je pense que c'est là que les gens ont un peu plus de difficultés quand ça donne des cas comme ça. Les fourmis, par exemple. Mm-hmm. Les fourmis, c'est un cas spécial. Moi, j'ai lu les fourmis, c'est de la science-fiction, les fourmis. Ça parle du monde des humains et du monde des fourmis. Mm-hmm. Ils vont venir par se rencontrer. Mais pendant les deux tiers du roman, t'as un chapitre sur les humains, un chapitre sur les fourmis. Un chapitre sur les humains, un chapitre sur les fourmis. Genre. Et très curieusement, on est plus près des fourmis, on croit plus aux personnalités des fourmis que tous les chapitres qui parlent des humains, où là, ça marche pas. Tu y crois juste pas. Ces êtres-là, les humains. Donc, l'auteur a plus de difficultés à dealer avec les humains qu'avec les fourmis. C'est assez curieux,
quand
même.
Ça peut être une décision de faire un portrait des humains d'une manière objective, faire un portrait des fourmis d'une manière subjective.
Non, parce que tu vois qu'il veut leur donner des émotions aux humains, tu vois qu'il veut leur faire faire des trucs, tout ça, mais c'est invraisemblable. Okay. Tu y crois pas. Tout ce qu'ils font, en tout cas, pour moi, n'était pas crédible. Mais à chaque fois qu'on venait dans les fourmis, là, on y croyait au bout. Fait que ça, c'était un peu, pour moi, une espèce de stéréotype de science-fiction quand ça marche. Pas, ben ça marche pas. C'est quand même bon, les fourmis, parce que... ça marche pas côté émotion des personnages. Mais j'aimais ça le lire, parce que le côté des fourmis était tellement fascinant. Mais je me suis dit, crime, voilà justement un exemple d'un auteur de science-fiction qui connaît plus la science, qui connaît plus les bibittes, qui connaît plus les questions philosophiques que l'humain dans son quotidien, tu sais, l'humain dans la vie de tous les jours. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Mais il y a des romans de science-fiction qui réussissent. Moi, un des meilleurs romans de science-fiction que j'ai écrit, c'est Daniel Cernin, un Québécois qui l'a écrit, qui s'appelle Chronorègue, qui est un roman de science-fiction extraordinaire. Et là, c'est très émouvant aussi. Le côté humain, émotion, marche en même temps que le côté... Bon, il y a Joël Champetier, maintenant, qui est mort il y a quelques années, qui était un auteur de science-fiction qui réussissait ça. Il y a moyen, là. Je dis pas que c'est pas possible. Mais souvent, c'est une littérature qui s'occupe trop... de la science et de la technologie et de se créer un monde et moins de l'humain. Et l'horreur aussi, là. Je veux pas avoir l'air du gars qui... Je pense que la littérature de genre, en général, a ce risque-là, c'est-à-dire d'être plus préoccupé par les codes que d'être préoccupé par ses personnages et l'émotion qui doit venir avec. Les mauvais films d'horreur, c'est des romans où justement tout le monde meurt, mais tout le monde s'en fout que tout le monde meurt parce qu'on
n'est pas attaché.
On n'est pas attaché à ces personnages-là. Ils nous intéressent pas. Ils sont unidimensionnels. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Alors ça aussi, ça se peut dans l'horreur, là. Le code, le genre qui l'emporte sur les personnages et sur l'émotion qui doit s'en dégager.
J'ai eu au cégep un cours avec Gilles Pellerin, qui est un écrivain québécois. Puis lui, quand il parlait de science-fiction, il disait, à son avis, le meilleur auteur de science-fiction, c'était Jules Verne. Parce que lui, dans Jules Verne, quand il écrivait ses livres, le 20 milieux sous les mers, un sous-marin comme ça n'existait pas. C'était de quoi de fabulé par Jules Verne. Puis le roman s'attache justement au personnage. Il y a quelque chose de surnaturel dans ça. Il y a quelque chose de science-fiction.
De science-fiction plutôt, oui.
Exact. Oui, c'est ça. Sauf que le roman ne tourne pas autour de ça. Le sous-marin, c'est une des choses dans le roman. C'est le lieu.
Ouais, mais en tout cas, moi puis Gilles, on pourrait avoir une bonne discussion là-dessus, mais moi Jules Verne, je suis pas capable. Il me tape ses nerfs. Je trouve que dans un roman de 800 pages, t'as 200 pages de roman, puis 600 pages de description de poissons, d'algues, de comment ils ont construit le sous-marin. Alors c'est sûr que quelqu'un qui s'intéresse au côté science de science-fiction, le côté visionnaire de Jules Verne est extraordinaire. Ouais. Je suis pas en train de dire qu'il est pas bon, là. Je parle de plaisir personnel à le lire.
Ouais, définitivement.
Mais je comprends qu'à l'époque, quand on l'a lu, on a dû faire « Tabouin, comment qu'il imagine ça, ce gars-là?
Ouais. »
Et aussi, la télévision n'existait pas. Alors lui, quand on était en dessous de l'eau avec lui, puis qu'il décrit tous les poissons qu'on voit à travers le hublot pendant des pages et des pages, le lecteur qui lit ça découvre.
C'est des images que j'ai jamais vues. Là.
Exactement, ouais, exactement. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de ça. Là. Je vais aller écouter National Geographic, je vais aller sur YouTube, m'envoie des poissons. M'envoie des poissons.
Tu veux voir des poissons,
pas de problème. Là. C'est ça. Ou même, je vais aller voir la Lune, qu'est-ce qu'elle a de l'air. Je vais aller voir. Ouais. Mais Jules Verne, il offrait au monde une vision des choses que les gens n'avaient pas accès à ça.
Ouais.
Et je peux comprendre qu'à l'époque, c'était pour ça. Donc oui, c'est un grand roman de science-fiction. Mais moi, aujourd'hui, lire Jules Verne, tout ce côté documentaire-là m'ennuie profondément. Mmh. Puis je trouve que les personnages, ce que j'ai lu de Jules Verne, les personnages sont assez unidimensionnels. Je trouve qu'ils sont plus fonctionnels. Tu sais, ils servent à... Mais à l'époque, c'était la télévision de l'époque, c'était le cinéma de l'époque, il a dû faire des recherches hallucinantes. Sur l'île mystérieuse, c'est moi qui décrive pendant 300 pages comment ils construisent leur maison, puis comment ils se font à manger, puis comment ils construisent un gun, puis comment... Je trouve ça d'un ennui épouvantable si c'est pas intégré dans l'histoire.
Mm-hmm.
Mais à l'époque, ce côté documentaire-là était important. Et d'ailleurs, tous les auteurs du 19e siècle faisaient ça.
Exact.
Ils décrivaient beaucoup. C'est pas le seul. Alors, ça faisait partie Et en plus, donc, lui faisait ça. Et en plus, il amenait à ça des histoires hyper imaginatives. Alors oui, je peux comprendre l'impact qu'il y a eu. Mais écrire comme Jules Verne aujourd'hui, ça serait un peu absurde.
Ouais.
Ça serait un peu absurde. Et moi, le lire aujourd'hui, ça... Moi, personnellement, ça m'ennuie. Mais il y a plein de gens qui adorent ces descriptions-là pendant des pages et des pages. Là. C'est très personnel à ce niveau-là.
Mmh. Mais si on prend, mettons... parce qu'effectivement, écrire comme ça est un peu désuet maintenant. Par contre, il y a quand même des restants. Si on garde le plongeur qu'on parlait tout à l'heure avec Stéphane Leroux, les scènes dans les cuisines sont extrêmement descriptives. C'est des longues périodes, sauf qu'on dirait que...
Elles sont haletantes.
Il a réussi à le faire de façon que tu lis, puis là, OK, là, faut qu'il lave les assiettes, puis là, il n'y aura pas le temps de...
T'es dans le rush, le rush en même temps que lui, là. C'est moi, je dis pas que les descriptions sont... On fait plus de descriptions aujourd'hui, c'est pas ça que je dis, là. Puis moi, le 19e siècle, en passant, je suis un fan. Je suis un gros, gros fan du 19e siècle. Moi, je suis un fan de Zola, je suis fan... Les descriptions de Zola, j'ai trouvé extraordinaire.
Le plongeur se rapproche du naturaliste de Zola.
Tout à fait. Puis, en fait, il a fait un roman qui va à contre... je parle de La Fleur, de La Rue.
Ouais.
Il a fait un roman qui va à contre-courant de ce qui se fait maintenant au Québec. C'est-à-dire, à part dans les romans de genre, moi, j'en fais des briques de 500 pages, mais les auteurs sérieux, là, je mets 8 guillemets, en général, c'est du 150 pages, 200 pages... C'est de l'autofiction, ça parle juste de ses bébites personnelles. Il y a de l'autofiction dans le livre de Stéphane, mais il y a une vraie histoire aussi. Et encore là, attention, je ne dis pas que tous les auteurs québécois font juste ça, mais il y a une tendance à ça.
Ouais.
Il y a un gros disclaimer par-dessus tout ce
segment-là. Il y a des tendances dans tout. Il y a des tendances dans l'horreur, il y a des tendances dans la littérature sérieuse. Il y a toujours des tendances dans toute la littérature. Fait que, hein, dans la mienne aussi, là, je veux que ce soit clair ça. Mais Stéphane, il est arrivé avec un roman, un gros roman, oui, avec de l'autofiction, mais avec une vraie coupe dramatique, avec la description très 19e siècle, justement, écrit à l'américaine. C'est vraiment écrit à l'américaine, là, et c'est pas un défaut, au contraire. Moi, quand j'ai écrit à l'américaine, ça veut dire un souci de l'efficacité tout le temps.
Des petits dialogues rapides.
Oui,
hein,
puis très réaliste. Ouais. Puis même s'il y a des longs passages qui se passent pas grand-chose, c'est plus dans l'ambiance du restaurant, il est toujours à la recherche de « je vais rendre ça le plus efficace possible ». Ce qui était le cas dans certains romanciers du 19e siècle, il y en a que moins. Balzac, c'était pas toujours l'efficacité. Balzac, c'était la description pour la description, puis ça, des fois, ça m'ennuyait. Pour rappeler aussi qu'il était écrit au mot, ces gens-là, là. C'est pas très noble comme les profs d'université le disent moins, mais il était écrit au mot. Il était payé au mot. Fait que plus tu faisais de mots, plus c'était payé.
Marcel Proust, t'es-tu payé au mot pour...
ben là, on est rendu au 20e siècle. Non, moins. Sans doute moins. Mais 19e siècle, où que souvent leurs livres sortaient dans les journaux, c'était des feuilletons, alors oui, il était payé au mot.
Okay.
Sauf qu'il y en a là-dedans qui ont eu l'intelligence de dire, tant qu'à faire beaucoup de mots, ils m'ont inventé quelque chose. Puis Balzac, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un des premiers écrivains qui a décrit la laideur. Parce qu'avant, on décrivait la beauté, mais lui, il a dit les choses laides, les choses du peuple, les choses qui sont normalement pas artistiques, méritent d'être décrites, méritent d'être... ça, ben, ne serait-ce que pour ça, chapeau. Mm-hmm. Mais donc, oui, je dis pas qu'on peut plus écrire de cette manière-là, mais si on écrit avec des descriptions, il faut moderniser ça quand même, puis rendre ça... Faut plus avoir l'impression de dire « je décris pendant 10 pages une scène de restaurant » uniquement pour montrer... La différence avec la rue, c'est que quand il décrit ses scènes de roche dans le restaurant, le but n'est pas de dire « voici comment fonctionne un restaurant ». Il y a un peu de ça. Mais le vrai but, c'est de dire checker comment qu'on rush, asti. Regardez comment qu'on est dans le jus. Regardez qu'est-ce qu'il ressent en faisant ça. Puis, et ça, c'est pas évident que ça marche. Ça aurait pu être emmerdant en tabarnouche, ces scènes-là. Là.
C'était risqué quand même.
Puis moi, quand on me dit qu'il y a beaucoup de scènes de restaurants, par exemple, qui décrit de rush pendant 10 pages, j'ai fait oh my God, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. OK, moi, l'essayer parce que tout le monde en parle. Mais écoute, moi, j'allais prendre ma douche après ces scènes de rush. Là.
J'avais la graisse au bout des doigts.
Je puais moi aussi. Ça, c'est un tour de force quand même. Donc, c'est encore possible de faire ça, mais. C'est pas facile, c'est pas facile.
Je vais aller lire ça.
Ouais, non, c'est le plongeur, c'est un peu un ovni là. Puis moi, au moment où est-ce que c'est sorti, j'avais un séminaire de maîtrise sur la littérature actuelle. Puis quand c'est sorti, comme notre session a tourné autour de ça, tellement c'était...
Il y a eu un gros buzz.
C'était majeur.
Il y a eu un gros buzz. Puis ouais. Stéphane, qui est un gars très intelligent, il est content de ce buzz-là, mais il est pas fou, il dit... Là, il est tellement gros le buzz que là, je sais que j'ai de la pression pour le deuxième roman. Là. Ouais. Il est pas en train de dire mon deuxième roman va marcher au bout. Il fait wow! Il dit des gros buzz de même. Il dit, je sais qu'il y en a qui ont des gros buzz. Puis qu'après ça, ça a fait boum, c'est tombé. Ouais. Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Fait que tu vois, il y a la sagesse, l'intelligence et la modestie aussi de dire on verra le deuxième. Et parce qu'il pense comme ça, ça va sûrement l'aider pour le deuxième parce que justement, il prend rien pour acquis. Puis un écrivain ne doit jamais rien prendre pour acquis.
Est-ce qu'il prend son temps ou bien il...
Oui, il prend son temps.
C'est ça, hein?
Oui. En même temps, il y a de l'urgence des fois.
Il y a de l'urgence de surfer sur le buzz, mais en même temps, prendre
son
temps.
Non, mais je ne parle pas de cette urgence-là. Je parle de l'urgence quand il écrit. Moi quand je me rappelle quand j'avais lu Le Plongeur, on était allé prendre une bière après, on était rentré en contact, on était allé jaser, puis tout ça. Puis... pendant que je le lisais, je me disais, fou, j'y pose la question. Moi, j'ai l'impression qu'il a écrit ce roman-là quand même assez vite parce que je vois qu'il y avait quelque chose d'urgent dans ce roman-là. Puis il m'a dit, oui, j'ai écrit, j'y ai pensé. Là, il a couvé longtemps, mais à un moment donné, il y a des pages là, que j'écrivais. Cette urgence-là se sent dans l'écriture. Puis c'est pas parce que tu écris un roman dans l'urgence et tu l'écris vite qu'il n'a pas été pensé pendant longtemps avant, cela dit. T'sais. Fait que. Donc, oui, il peut être dans l'urgent, mais il prend son temps dans le sens que, regarde, son deuxième roman, là, il pourrait dire, je pourrais surfer là-dessus puis sortir dans un an. Ça fait quoi, 2 ans qu'il est sorti, là? Ouais. Il est en train d'écrire, mais il se sent
il
pas...
Sera prêt quand il sera prêt.
Non, puis il sait qu'il est attendu, fait qu'il veut pas, justement, il a l'intelligence de dire, je vais pas pitcher n'importe quoi parce que Noé, je vais le vendre. Il veut être à la hauteur de lui-même, en fait.
Mm-hmm. Ouais. J'avais entendu dans une entrevue que ça t'avait pris 5-6 ans à écrire 51-50 Rue des Hommes. Puis 3 mois écrire le deuxième.
Oui. Moi, je suis contraire de Stéphane. Ouais. C'est peut-être pas une bonne idée. Mais.
C'est quand même.
Ben, c'est parce que j'étais à l'université quand j'ai écrit 51-50. Fait que
C'était une job à temps partiel.
Puis je voulais l'envoyer chez des éditeurs, celui-là. C'était la première fois que j'envoyais. J'ai écrit plein de romans avant, mais qui sont dans mon garde-robe. Là, c'était la première fois que je voulais l'envoyer chez un éditeur. Fait que j'étais bien nerveux. Je travaillais tout, puis là, je l'ai envoyé, puis ça a marché.
C'était la première fois que vous jugiez ça, que tu jugeais ça assez bon pour...
Oui, avant, j'y pensais pas. Moi, j'écrivais pour le fun. J'écrivais parce que mes chums me lisaient, puis ils trouvaient ça cool, puis j'écrivais parce que j'aimais écrire. Puis à un moment donné, le monde s'est même dit, tu pourrais peut-être essayer de publier. C'est pas fou. Puis
c'est
là,
un gros step quand même pour quelqu'un qui écrit. Là.
Puis à 17 ans, je me suis dit, là, je me suis pris pour un autre, comme ça arrive souvent quand t'as 17 ans, puis que tu commences à écrire ou à jouer de la musique. Puis ça fait partie. Pas tout le monde, là. Mais il y a beaucoup de jeunes qui tout à coup, pensent qu'ils sont en train d'inventer quelque chose, qu'ils sont en train de révolutionner la musique.
C'est du pur génie.
Ils sont en train de... genre, tout casser.
C'est la perfection.
J'étais inspiré par personne, moi. Ben oui, t'es inspiré par personne. Ben non, comme si ça se pouvait d'être inspiré par personne. Parce que j'en parle parce que j'ai enseigné longtemps, j'ai vu des jeunes de même. Mais c'est cute, hein. Je suis pas en train de dire qu'ils sont épais pis sont trop de cul. Ils canalisent mal leur enthousiasme ça va passer, la réalité va les rattraper.
Canaliser son enthousiasme.
C'est ça, puis ceux qui ont vraiment du talent, ça va se placer, puis ceux que c'était juste, sont partis sur une bulle, ça va se tasser. Mais moi, à 17 ans, j'imagine que j'avais un certain talent pour faire ce que je fais maintenant aujourd'hui, mais à 17 ans, je pensais pas que j'avais un certain talent, je pensais que j'étais...
Le talent.
Je pensais que j'étais le plus hot. Là. J'ai eu un moment donné, à force de te faire dire par tes chums que t'es bon, par tes profs que t'es bon, à un moment donné, tu fais, je dois être bon en maudit pour vrai, tu sais.
Ouais. Et là, le Mozart de...
C'est ça. Ben là, j'étais le Stephen King. Là, je vais devenir le Stephen King du Québec. Là, du monde qui dit, c'est drôle parce que
c'est pas mal ça qui est devenu.
Oui, mais c'est quand j'ai arrêté de penser de même que ça a marché. Mais quand je me disais ça, j'ai écrit un manuscrit puis je l'ai envoyé à un éditeur dans un concours littéraire, un concours majeur là, du Québec. Là,
okay.
Et j'ai. Écoute, moi, je pense qu'ils ont lu 10 pages. Puis ils ont...
Ah ouais.
J'avais même pas travaillé, j'avais même pas refait. J'ai envoyé un premier jet convaincu que j'allais être hot. Puis ça, quand t'es convaincu que t'es hot, ça marche pas.
C'était un concours dédié à des livres de genre?
Même pas. Ah, imagine-toi. Ouais. Fait que là, moi, j'étais sûr que j'allais gagner. Ouais. J'étais sûr que j'allais gagner. Évidemment, non seulement j'ai pas gagné, mais j'ai jamais eu de réponse. J'ai jamais rien eu. J'ai pas été dans les trois premiers. Comme je dis, ils ont même pas dû le finir.
Ouais.
Et là, j'étais frustré, puis là, j'ai braillé de rage pendant 3 jours en disant « Gang d'épée, vous avez rien compris. » Puis à un moment donné, à force de brailler, puis à force de jaser, à un moment donné, tu fais, il y a une petite voix dans toi qui fait « Il y a peut-être une leçon à prendre, petit cul, de ça. »
Ouais.
Puis là, j'ai lu ma leçon, c'est « Calme-toi les nerfs, travaille tes textes. » Puis j'ai un prof d'université en même temps, après ça, une couple d'années après, qui me dit « Là, t'as du talent, mais tu travailles pas. Là, faut que tu travailles. Parce que si tu veux publier un jour, il va falloir que tu travailles. » Les textes. Là, on voit le talent, mais on voit pas le travail. Puis, il m'a secoué en tabarnouche. Et c'est là que j'ai 51, 5 ans, je me suis dit, OK, là, je vais vraiment travailler. Je vais faire plusieurs gestes, je vais le recommencer, je vais le retravailler, je vais le faire un plan. J'ai tout fait ça, puis ça a marché. Et là, j'étais tellement énervé de publier un premier roman que je me suis dit, je vais en publier un autre, mais je veux pas que ça me prenne encore 5 ans.
Ouais.
Là, j'avais 3 mois de l'écrire, mais je l'ai pensé pendant 6 mois avant.
Okay.
Mais là, j'ai dit, faut que je trouve une idée, faut que j'en écrive un vite. Il faut que ça soit donc une idée assez simple, pas beaucoup de personnages, pas beaucoup de lieux, un punch, ça a donné Le Passager.
Mm-hmm.
Et Le Passager, même si je l'aime bien, c'est quand même de tous mes romans, s'il fallait qu'on en brûle un de mes romans, là,
ce serait lui.
Je choisirais celui-là. En pleurant, en pleurant. Puis en même temps, c'est paradoxal parce que c'est ma porte d'entrée dans les écoles secondaires. C'est ce roman-là qui fait que beaucoup de profs le mettent au programme de l'école secondaire. Okay. Donc, ça serait brûler ma carte de visite. Mais artistiquement parlant, c'est mon roman le moins ambitieux quand même. C'est celui qui repose juste sur une gimmick, un punch. Ouais. Il n'est même pas si nouveau comme punch. Il est bien fait, il est efficace. Je comprends pourquoi il lit dans les écoles secondaires, il n'est pas long. Mais moi, comme créateur, c'est pas un roman qui comment dire? C'est pas un roman dans lequel j'ai montré ce dont je suis le plus capable côté créatif.
Ouais, on a toujours.
Mais je le renie pas. Faut rien renier, là. Non, puis ça fait partie de l'évolution de ce que je suis.
Est-ce que dans ce 3 mois-là, on compte la réécriture? Parce que c'est souvent ça, le nerf de la guerre. Là, dans
non, 3 mois, je l'ai envoyé chez l'éditeur.
OK.
3-4 mois, je l'ai envoyé chez l'éditeur. Ça a vraiment pris 3-4 mois. Hein?
Ouais. Une fois que tu l'envoies, c'est qu'il est terminé ou bien il y a encore du travail?
Ben là, à chaque fois que tu envoies vraiment chez l'éditeur, l'éditeur fait sa job aussi. Un bon éditeur fait sa job, c'est-à-dire qu'il va le lire et il va te dire des cues, ça, ouais. Je suis pas sûr, nanana, telle affaire, nanana. Puis là, tu retravailles avec ce que tu es d'accord ou non avec lui, parce qu'un bon éditeur va aussi accepter. Évidemment, si vous n'entendez pas pantoute, ben là, il ne publiera pas.
Ouais.
Mais en général, tu trouves un équilibre. Puis moi, je l'ai fait lire aussi à une couple de mes amis, en même temps que mon éditeur, en qui j'ai beaucoup confiance puis qui vont faire une bonne job aussi. Fait que moi, j'ai des avis. Même aujourd'hui, maintenant, moi j'ai 4 lecteurs. Là, depuis plusieurs romans, j'ai 4 lecteurs. Depuis une dizaine de romans, je te dirais, 6-7 romans. En tout cas, dans un des cas, René, c'est depuis 10-12 romans. Olivier Sabineau, René Flageol, mon chum, Olivier Sabineau, lui, ça fait au moins 5-6 romans qu'il lit, ma blonde et mon éditeur. Ces 4 personnes-là, les lisent en même temps. Non, c'est pas vrai. Ma blonde le lit en premier. Après ça, je fais des ajustements selon ce qu'elle me dit. Mm-hmm. En fait, elle le lit pas, je lui lis. Je lui lis à voix haute. Ouais, pendant plusieurs jours. Là.
Crachoir de Patrick Sénégal.
Ouais, c'est ça. Je vois ses réactions, je vois ses... Et après ça, je fais des ajustements. Et là, je l'envoie à mes 2 chums et mon éditeur en même temps. Eux autres vont me faire des commentaires.
Ouais.
Et là, je suis libre d'accepter ce que je veux ou non. Mais je dirais que 75% de ce qu'ils me disent, je suis d'accord.
Ouais,
ces gens-là, j'ai confiance en eux depuis des années. C'est pas pour rien. Là.
Souvent, si tu remarques en plus des points communs entre
exactement,
les
3. Exactement. Quand les 4, mettons que ma blonde le dit aussi, mais elle, souvent, c'est ce qu'elle me dit d'avance. Quand je suis d'accord, je le corrige tout de suite.
Ouais.
Puis si les 3 autres, après ça... disent un commentaire. Cette scène-là, là, on n'y croit pas. Là, les 3 disent ça. Tu peux toujours dire, bah, moi, je pense qu'elle marche, mais là, tu fais attention. Là. Il y en a 3 que tu trouves intelligents, qui, depuis des années, en qui tu as confiance, et les 3, sans se consulter, disent que cette scène-là, je comprends pas tel aspect ou j'y crois pas. Ou... Ben, moi, je pense qu'il faut être l'humilité de dire, ils ont raison. Mm-hmm. Et là, je retravaille ça. T'sais, René, mon roman Enfin, qui a un spectacle de cirque là-dedans, il y a un cirque qui fait un spectacle complètement déjanté, très, très trash, qui met les gens mal à l'aise, les gens sortent du spectacle, ils sont bien ébranlés.
Ouais.
C'est un cirque pour adultes. Là, j'ai monté un show complet. Là. Pendant 10 pages, j'explique un show de cirque. Il a fallu que j'y pense en tabarnouche. Là, puis là, toute la logique de ce show de cirque-là, j'ai travaillé là-dessus. Et là, je fais lire ça à René. Et là, mon éditeur le lit, Olivier lit, puis René. Mais dans les trois, il y a juste René qui dit « C'est ça ton show? Ton show trash? Patrick Sénécal, ton show trash, c'est ça? » Dis-moi, je m'excuse, mais il dit « Si je vais voir ce show-là, oui, je vais être un peu ébranlé, mais pas tant que ça. » Il dit « Patrick, au Foufoune électrique, il y a du monde qui font des shows bien pires que ça.
Ouais, c'est
ça. Il y a du monde qui se cloue les testicules sur des planches de bois et tout ça. » Fait que tu peux faire quelque chose de plus perturbant que ça.
Mm.
Mais crème, moi, que c'est le coup, quand il me dit ça, je fais « Ouais, on tombe, il est pas assez, il faut que je retravaille. » Mais je me dis « Il a raison. » Mais je veux pas non plus renier que le monde se sauve en courant. Il dit « Non, mais tu peux faire quelque chose d'un peu plus... Puis j'ai recommencé, j'ai gardé la même base, mais j'ai fait des numéros un peu plus élevés, un peu plus... Puis là, il a lu, puis il a fait « Ouais, là, ça marche. Là, je te reconnais. » Fait que tu sais, des fois, c'est confrontant, mais ça t'oblige à aller plus loin. Ça t'oblige à sortir le mieux de toi. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses que tu vois plus. Moi, l'écrivain qui dit aujourd'hui, un écrivain que ça fait... et je pense que c'est le cas de beaucoup d'écrivains qui ont beaucoup de succès, Stephen King et tout ça. Je pense que c'est des gens, à un moment donné, qu'on leur laisse publier. Ils n'ont plus de travail d'édition, ou ils en ont beaucoup moins sous prétexte qu'ils sont connus. Ça, je pense, c'est dangereux. Moi, je pense que tu as toujours besoin d'un éditeur ou de lecteur, appelle ça comme tu veux, mais tu as toujours besoin de regards extérieurs, professionnels et intelligents, qui vont te dire, là, tu fais fausse route, parce que là, tu vois plus, là. Tu es dedans depuis des mois, depuis des années, des fois, tu es dedans, puis il y a un recul que tu n'as plus, et c'est normal. Et tu auras toujours besoin de gens qui vont avoir ce recul-là. Envoyer un manuscrit convaincu à 100% qu'il n'y a plus une ligne à changer avant que quiconque l'ait lu. Moi, cette confiance-là, je la comprends pas. Ouais, cette arrogance-là, je la comprends pas. Puis je pense pas que c'est bon pour le livre. Je pense pas que c'est bon pour le livre.
Ces personnes-là, ils n'ont pas peur de te heurter. Ils sont francs.
Ben oui, c'est mes amis. Puis je leur dis, écoutez, si vous êtes juste me dire, ah, c'est super bon, Patrick, c'est génial, pas intéressant.
Ouais.
Ça, le commun de mes lecteurs va me dire ça après ça, mais le commun, pas dans ça qui sont communs, mais le commun, la plupart, c'est ça que je veux dire. Je sais que la plupart des gens qui me lisent, là, mes fans, ils vont dire « Ah, c'est super bon, on a super aimé ça. C'est cool, ça fait chaud au cœur. » Mais je veux qu'ils disent ça parce qu'il y a eu de la job avant qui a été faite. Puis que, tu sais, bon. Puis cette job-là, je peux pas faire tout seul. Même un réalisateur de film, son plateau, il va se faire conseiller par son directeur photo, il va se faire conseiller par ses comédiens. Des fois, vont dire « Moi, je le ferais de même. Moi, je le dirais de cette manière-là. » Si un réalisateur dit non à tout, il dit « Non, moi, je veux que tu le dises de même. » Puis il dit à son directeur photo « Non, ta proposition de shot, je l'aime pas. » Ben là, coudonc, fais-le tout seul, ton film.
C'est
un film, c'est un travail d'équipe. C'est le risque de l'écriture, c'est que justement, vu que tu es le seul écrivain, vu que tu es tout seul, le piège, c'est de penser justement que tu as besoin de personne. C'est ça le piège de l'écriture. Oui, tu es tout seul, mais ça veut pas dire qu'à un moment donné, tu n'as pas besoin d'un avis extérieur.
Ouais. Est-ce que tu as un verre d'eau? Hein,
ouais, j'ai un petit chat dans la gorge, tout à coup.
Tantôt, quand on parlait du spectacle de cirque qu'il fallait rendre plus intense, là, est-ce que c'est par le graphique qu'on le rend plus intense ou par le psychologique? C'est quoi
les deux? Pour moi, un vient pas sans l'autre. Pour moi, toutes les. Tu sais, je sais qu'on me parle beaucoup de mes scènes graphiques, on parle beaucoup de mes scènes de violence qui sont très, très convaincantes, très réalistes, très bien faites, tout ça, mais je pense que le psychologique doit venir avec. Je veux dire, toutes mes scènes très violentes, là, très trash, là, si elles marchent comme ça, si elles marchent autant que les gens le disent, moi j'espère que c'est le cas. Puis si c'est vrai, si c'est le cas, c'est sûr que c'est à cause de tout l'aspect psychologique qui est venu avec.
Ouais.
C'est que ces personnages-là, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils en arrivent à poser ces gestes-là? Puis qu'est-ce que ceux qui les subissent ressentent? Ça, je pense que c'est aussi important que la scène elle-même. Et c'est ça le problème des films d'horreur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de certains films d'horreur que certaines scènes violentes vont plus faire rire que autre chose. Parce que tout ce qui ressort, c'est le côté violent, gore. Si ce personnage-là, on y a pas développé une psychologie, on y a pas développé une personnalité, ben, il reste juste l'aspect graphique, justement, qui est dénué d'émotion s'il y a pas le reste avec. Alors moi, je pense que tout doit venir... Parce que trouver des manières de tuer du monde, trouver des manières de torturer quelqu'un...
Il y en a beaucoup, là.
C'est facile.
C'est infini. Ouais.
C'est facile.
Tu peux tout faire.
Oui, tu peux tout faire.
Ouais.
Mais est-ce que ça va être crédible? Est-ce que ça va être... pas réaliste, mais vraisemblable.
Va te faire sentir quelque chose.
Va te faire quelque chose. Et est-ce que le personnage, toute la psychologie qui l'a amené à ça, est-ce que ça fait qu'on y croit? C'est ça qui est tough. C'est pas de trouver une manière. C'est pas pour rien qu'ils font tant de films d'horreur avec des moyens de tuer du monde. C'est pas pour rien que Décadence sont rendus à 8, 9 ou je sais pas combien.
Ça fait parce que c'est une couple d'années qui n'est pas sorti.
Ben là, je pense que le 10e sort. Là. Ben oui. Mais ils vont en sortir tant qu'on va y aller. Hein. Ça, c'est la loi du marché. Mais c'est pas pour rien qu'en sortant, c'est parce que c'est. facile.
Ça, c'est de l'horreur immature, comme on disait tantôt.
Oui,
là,
mais
ça, c'est de l'horreur.
Le monde a droit d'aimer là. Oui. Oh, oui. Moi, je juge pas ça. Si le monde aime l'horreur immature, ils ont le droit. Moi, ça m'intéresse plus. J'ai 50 ans, mais il semble que maintenant, on se tanne de ça. Ouais. À 17 ans, 18 ans, 20 ans, l'horreur immature, j'aimais ça. Ouais,
oui.
Mais moi, je trouve que oui. Je trouve que moi, je suis rendu à une autre étape. Mais je ne suis pas en train de dire « Ah, l'horreur immature, c'est malsain, c'est mauvais. » C'est moi, je trouve pas ça intéressant.
C'est un genre en soi, mais pour moi, c'est pas ça la vraie horreur. Tu sais, mettons, si on parle de cinéma, moi, j'ai découvert le cinéma. La première fois que j'ai vu un film qui m'a bouleversé, qui m'a changé, puis qui fait « OK, c'est possible de faire du cinéma autrement », c'est Kill Bill. Ouais. J'ai vu ça trop jeune, j'ai vu ça, j'avais 12 ans.
À cause que ton frère, il trippait ta
c'est vraiment, Tarantino. C'est de la grosse violence graphique, mais quelque chose d'artistique là-dedans, puis quelque chose de fun,
ouais,
de vraiment
ça,
de fun.
Mais ça se prend pas au sérieux.
Ça se prend pas au sérieux. Non,
c'est ça qui fait que ça passe bien aussi.
Sauf qu'après ça, justement, ça passe bien, mais après ça, des films vraiment horrifiants. Funny Games, c'est un film vraiment horrifiant, ou même
ça, c'est la famille qui est pris en
il y a deux gars qui débarquent dans une maison,
deux voisins qui viennent s'amuser avec eux autres et qui torturent psychologiquement et physiquement,
tout l'aspect psychologique, c'est ça. Puis tu sais, si on parle de Kubrick, on dit souvent son film d'horreur c'est The Shining. Pour moi, Clockwork Orange, c'est beaucoup plus horrifiant que The Shining, parce que la violence est...
Mais tu vois, c'est très personnel, les choses qu'on trouve horrifiant ou non, parce que tu sais, moi aussi, le Funny Game, je trouve ça insupportable. Mais je connais des gens qui ont été complètement froids devant ce film là qui ont dit moi, j'ai rien senti, j'ai pas compris. C'est l'aspect psychologique, justement, qui est terrifiant. Mais il y a des gens qui sont habitués surtout à voir des films d'horreur, surtout sanglants, qui aiment le côté grand guignol.
Ouais.
C'est sûr que face à un film psychologique, ça prend tout à coup peut-être une maturité cinématographique, en tout cas, que tu développes pas si tu regardes juste Friday the 13th puis que tu regardes juste ces films-là. T'sais.
Moi, le pire film que j'ai vu... puis tu sais, je pense pas que ça rentre dans la catégorie film d'horreur, mais c'est Irréversible de Gaspard Noé.
Ouais.
Tu sais, puis j'ai même pas voulu regarder la pire scène du film, mais la deuxième pire scène, elle me hante encore. T'sais.
Ouais, le viol ou
le gars qui se tue. L'instincteur. J'ai vu l'instincteur.
Ouais, l'instincteur, c'est assez insupportable.
Mais j'ai pas voulu regarder le viol.
Le viol, moi je le trouve complaisant. Je trouve qu'il est trop long. Je trouve qu'on entend trop un équipe dire je suis scandaleux, bon. Mais la scène de l'instincteur, c'est sans doute la pire scène que j'ai vue dans ma vie, moi aussi.
Ah, c'est... Ouais. C'est
puis ça marche. Ça marche. Oui. Moi, ça m'a traumatisé un peu. Traumatisé, on s'entend, là, mais je regardais la scène, j'étais... Je pense que j'arrêtais de respirer.
Ça doit en prendre beaucoup, en plus.
Oui, puis moi, ça m'en prend pas mal. J'ai vraiment arrêté de respirer pendant cette scène-là en disant, ben voyons donc. J'étais vraiment... Fait que si ça fait cet effet-là, ça veut dire que quelque part, ça marche.
Exact.
Cela dit, moi, Gaspard Noé, j'ai bien de la misère avec lui. Je trouve qu'il cherche trop toujours à choquer le monde. Ça me tape ses nerfs.
Tomber dans le piège de vouloir toujours mettre la barre plus loin à chaque film.
Mais il a du talent. C'est un gars qui a du talent, ça c'est clair. C'est un gars, bon. Mais cette scène-là, t'as raison, c'est une scène qui est venue chercher... Oui, c'est très, très gore.
Il y a des scènes plus graphiques que ça.
Mais il existe des scènes plus graphiques que ça, mais qui font pas cet effet-là, exactement.
La violence, puis l'honnêteté dans l'action du personnage puis de l'acteur, c'est comme tellement intense.
Une grosse scène.
Il n'y a rien qui fait vivre quelque chose comme ça dans un film.
Qui est insupportable.
Ouais.
Puis d'être insupportable, comme tu dis, c'est pas toujours juste l'aspect gore qui l'amène, parce qu'on a tous vu des films gore où que tu vois en gros plan un scalpel qui coupe un œil, tout ça. Ouais. Moi, ça me laisse complètement indifférent parce que j'entends le réalisateur qui dit à son caméraman « Plus proche, mets-toi plus proche. » Tu sais, ça n'a aucun intérêt. Mais s'il y a du... Ça se peut qu'il y ait du gore et de l'émotion. Là. Un annule pas nécessairement l'autre. Mais cet équilibre-là, il n'est pas toujours facile à trouver. Puis effectivement, la scène de l'instincteur d'irréversible fonctionne. Alors que la scène de viol que tu n'as pas vue, pour moi, là, ça ne fonctionnait plus. Mais bon, c'est personnel. Parce que c'est comme l'humour. C'est la même affaire que l'humour. Il y a des choses que tu trouves drôles puis que d'autres personnes ne trouvent pas drôles.
Ouais.
T'as beau leur expliquer, t'as beau l'analyser, t'as beau dire pourquoi c'est drôle, ils vont faire « OK, yeah, right, mais je trouve pas ça drôle. » Des scènes d'horreur, moi, j'ai beau expliquer à un de mes chums pourquoi Anneke, le Funny Game, comment c'est terrible psychologiquement, puis il fait « Je comprends, mais quand je le regarde, ça me fait rien. » Fait qu'à partir de là, c'est très, très personnel, puis tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il veut, tu sais. Mais je pense qu'on peut quand même analyser des intentions plus artistiquement intéressantes que d'autres. Puis moi, qu'on ait eu peur ou non de Funny Games, qu'on ait trouvé ça terrifiant ou non, je pense que c'est facile à démontrer que, artistiquement parlant, Funny Games est un film plus intéressant que Friday the 13th. Après ça, si Friday the 13th te fait plus peur personnellement que l'autre, ça c'est subjectif, c'est personnel, c'est correct.
Ouais.
Mais reconnais au moins, même si t'aimes pas Funny Games, reconnais au moins la manière que c'est fait que c'est intéressant. Puis ça, moi, c'est ce que j'essaie de faire. À chaque fois que je vois un film, même si j'ai pas aimé ça, tu sais, quand je parle de science-fiction, tantôt je dis Asimov, c'est très, très froid, mais on ne peut pas ne pas reconnaître que c'est brillant, que c'est intelligent, que ça amène à réfléchir à des choses. Il faut reconnaître les qualités de quelque chose, même si on n'aime pas ça.
Moi, une des choses, pour refaire un peu le lien avec ton œuvre, une des choses qui me fait le plus peur à moi, c'est la projection de la race humaine. Moi, quand j'avais écouté Blade Runner, le premier Blade Runner, là,
qui était une révolution,
j'ai
là.
Paniqué.
Ouais. Ah oui.
Parce que le monde dans
Et
lequel...
Tu l'as vu quand, en passant?
Moi, je l'ai vu, j'étais au cégep, fait que je l'ai vu 2009 ou 2010.
Donc, tu avais quand même vu bien des films avant
j'avais
ça.
J'avais vu des films.
Ça t'a quand même...
J'avais option cinéma au cégep, fait que j'ai quand même écouté
ça
des films.
Ça t'a rentré dedans quand
ah,
même?
Non, moi, ça m'a complètement perturbé parce que c'était pas si loin
ouais.
de notre humanité à nous. Puis, ça montre qu'est-ce que l'espèce de désir de croissance économique, l'espèce de désir de devenir supérieur à se mettre, de s'élever la race humaine, puis désir qui dort, j'ai l'impression, au fond de l'humanité.
Ouais.
Puis moi, en voyant ça, c'est ça qui m'a perturbé le plus. Puis ça me fait, à moi, un effet plus fort que n'importe quel film d'horreur. Parce que je me dis, ça, c'est dans nous. T'sais.
Voir le pire de l'être humain, en fait.
Ouais, c'est ça.
Le pire qu'il est capable de faire.
Mais toujours dans la limite du réalisme. Parce que quand on dépasse cette limite-là, ben là, on n'y croit plus, puis ça me fait plus peur.
Mais moi, c'est ça qui m'intéresse le plus dans mes romans.
C'est exactement ce que je viens de dire.
C'est de... Quel est le pire? Qu'est-ce qu'on peut faire de pire? Puis là, il y en a qui disent, mais pourquoi tu t'intéresses pas à ce qu'il peut faire de mieux?
Ouais.
Ben parce que ce qu'il peut faire de mieux, ça fait pas des bonnes histoires. Ça fait pas des histoires très intéressantes. Sauf si un écrivain a vraiment du talent pour raconter quelque chose de beau du début. Mais une histoire, normalement, ça prend un drame. Il faut qu'il y ait un drame. Même une comédie sentimentale, il y a un drame à un moment donné. Il y a une chicane. Il y a quelque chose qui marche pas. Tu peux pas raconter juste le bonheur. Mais moi, oui, je veux bien que... Je sais que l'être humain est capable du meilleur aussi. Je sais. Puis on a des preuves souvent. Mais moi, je trouve que ce qui fait des bonnes histoires, c'est quand il est capable du pire. Ça amène à réfléchir sur ça. Puis bon, moi, ça m'obsède, alors je ne vais pas lutter contre ça.
Mm-hmm.
Mais oui, tu as raison que ça, c'est plus épeurant que. C'est pour ça que si tu fais juste filmer le couteau qui rentre dans l'œil sans contexte, mais si tu as compris que ce personnage-là, il avait ça en lui, mais il ne savait pas, puis il y a quelque chose qui ressort, puis surtout, pourquoi il rentre un couteau dans l'œil? Si c'est juste parce qu'il est sadique, c'est pas intéressant. Il l'a tué. Les meurtres dans. Quand l'auteur ou le réalisateur est plus préoccupé à faire une scène violente qu'à montrer pourquoi mon personnage en arrive à faire ça, moi, je trouve que c'est plus le deuxième cas qui est intéressant. Puis tu vas trouver le moyen de mon Dieu, je fais du cancalande, là, mais... dans mon roman, L'autre reflet, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est obligé de tuer quelqu'un, puis ça, il tente pas, mais il est obligé. Il est dans une cuisine, puis il tue à coup de toaster.
Ah ouais.
Puis je trouve ça bien plus violent, quelqu'un qui tue quelqu'un à coup de toaster... Que quelqu'un qui va prendre une lame de rasoir puis qui va y rentrer tranquillement dans la gorge. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il s'amuse à faire... C'est parce que c'est un psychopathe puis je suis méchant. Je veux dire, qu'est-ce qui incite quelqu'un à tuer quelqu'un de telle manière? Souvent, c'est l'urgence, la panique, la peur, l'instantanéité de l'endroit, la spontanéité, je veux dire, l'endroit, tout ça. Alors ça, je trouve ça... Psychologiquement, ça montre plus comment l'horreur, ça peut être du chaos. Comment la violence est chaotique, puis que c'est juste une bête en toi qui surgit, puis qui... Ça, je trouve ça plus intéressant. Alors, le toaster, tout à coup, devient... Un toaster, c'est fait pour se faire des toasts. C'est pas fait pour tuer du monde. Fait que je trouve que l'horreur, dans le quotidien, comme ça, c'est pire que de voir un autre film d'horreur où un gars prend une chainsaw, puis tue quelqu'un à coup de chainsaw. Je suis plus capable de voir du monde se faire un coup de chainsaw. C'est trop le code, c'est trop cool, c'est trop... Et là, l'horreur psychologique est évacuée. Mais oui, le pire... Quand le pire surgit en toi, tout peut devenir menaçant, tout peut devenir... parce que là, tu n'as plus le contrôle. Alors ça, moi, ça me fait bien plus peur. Je suis d'accord avec toi que de montrer juste un gars qui nappe du monde puis qui, avec un tire-bouchon, va y arracher un œil. Puis ça, c'est du grand guignol. Ça, c'est drôle. À moins que, bon, le gars, il fait ça dans une bataille ou quelque chose, puis là, il capote. Mais quand tu vois que toute la mise en scène est « je vais crever l'œil de quelqu'un avec un tire-bouchon », c'est tellement pas intéressant, ouais, je trouve, bon, personnellement. À moins de faire de l'humour avec ça ou du. Tu sais, à moins de.
À moins que ce soit le but. Là,
à moins que ce soit le but, c'est ça.
Parce puis que dans l'horreur, souvent, il y a un deuxième degré, il y a beaucoup d'autodérision.
Oui, oui, c'est ça. Malface, ma série Malface, c'est de l'horreur, mais c'est de l'humour aussi. Ouais. Puis là, je fais des affaires qui sont vraiment grotesques, mais c'est voulu grotesque, puis c'est voulu que le monde rit. Fait qu'à chaque fois, moi, qu'il y a une scène très violente comme ça, dans l'autre reflet, pas l'autre reflet, mais dans. Il y aura des morts à un moment donné, il y a quelqu'un qui plante une pine de fer vers quelqu'un dans le taxi, il passe travers la vitre, fait que. Et là, il vise pas trop, puis le chauffeur de taxi le reçoit dans la bouche. Ça, il traverse la bouche dans le cou. Mm. Je me suis demandé la question. Là, t'es-tu en train justement de faire du grand guignol, tout ça? Puis j'ai repensé au livre, tout ça, puis je me suis dit, ouais, mais ce livre-là permet ça. Le ton du livre, qui est une espèce de fuite, qui est un peu un jeu, en fait. Il y a quelque chose du jeu vidéo un peu dans ce livre-là qui permet ça. Alors qu'une scène comme ça, dans Les 7 jours du Talion ou dans Le Vide, ça n'aurait pas eu rapport. Mm-hmm. Ça aurait été trop justement over the top pour le genre de livre. Fait que faut se demander aussi qu'est-ce que tu es en train de faire comme style. Alors, des films d'horreur où que le gore l'emporte, des fois le film veut ça. Brain Dead, si t'écoutes un film comme Brain Dead, vous avez vu Brain Dead? Ouais. Ben là, c'est ça que tu veux. Là.
C'est ça le but.
Là.
C'est
Donne-moi en plein la vue, ça avec se prend pas au sérieux. Fait que c'est ça, ça dépend. Oui, écoute, c'est un classique. Là. Ouais. Fait que évidemment. Toute œuvre d'art, toute œuvre de narrative est un. Pas œuvre d'art parce que c'est pas nécessairement. Toute œuvre narrative, tout ce qui est narratif, théâtre, livre, est. Dès les premières minutes, il faut qu'il y ait un contrat avec le spectateur. C'est-à-dire, voici ce que je te propose comme ambiance, comme mode. Es-tu prêt à ça? Si t'es prêt à ça, tu vas avoir du fun. Si t'es pas prêt à ça, ben fais-le pas. Mm. Fait que c'est sûr que si un livre est hyper réaliste puis arrive après ça une scène à la Brain Dead, là t'as brisé le contrat. Ouais. Tu t'as fait non, c'était pas ça, là. Moi, c'était pas ça le but pantoute, là. Fait que ça, je pense qu'il faut l'installer assez rapidement. Puis c'est ce que j'essaie de faire dans chacun de mes livres. Qu'après 10 pages, mon lecteur sait que, OK, on va être plus dans quelque chose de très sérieux, on va être quelque chose qu'on va se payer à traite, on va être quelque chose de. Tu sais, Oniria, c'est la même affaire. Oniria, c'est très cartoon. C'est très over the top. Je l'installe assez rapidement aussi. Ça, je pense qu'il faut faire ça avec son lecteur.
Mm. Toi, quand tu écris des romans comme justement Les 7 jours du Talion ou Le Vide, où c'est plus psychologique, est-ce que ça t'affecte personnellement ou tu ressens pas vraiment ce que tes personnages ressentent?
Ben, c'est-à-dire que...
Ou quand tu regardes, mettons, quand tu regardes les films qui sont basés sur tes livres, est-ce que t'as de la misère à regarder ça ou pas du tout?
Ben, c'est pas si pire parce que j'ai participé au scénario puis j'ai vu les différentes étapes, donc je découvre pas le film quand il sort. Ouais. Hein, mais ta question est intéressante par rapport à ce que je ressens. Parce que c'est comme contradictoire. D'un côté, tu veux te mettre à la place des personnages pour voir qu'est-ce qu'ils veulent sentir. Mais en même temps, il faut que tu te protèges. Puis moi, j'écris des livres extrêmes. Alors, je peux pas vraiment me mettre dans la peau de quelqu'un qui reçoit un coup d'âge dans le ventre. Là. Je sais pas c'est quoi recevoir un coup d'âge dans le ventre. Mais je peux essayer de m'y approcher le plus possible mentalement. Et je suis toujours aussi, j'essaie toujours aussi que la mécanique de suspense, d'efficacité fonctionne. Donc, ça prend aussi un certain recul. Fait que je suis toujours conscient, je suis en train d'écrire un livre, là. Je suis toujours conscient que de la mécanique. Fait que quand la scène est finie, je ne suis pas perturbé pendant 3 semaines. Là. Je suis pas. J'arrive pas toute la soirée, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai écrit là? Ouais. Je me débarrasse assez rapidement, mentalement, de ce que j'ai écrit, puis je passe à autre chose. Je coupe assez facilement. Parce que j'écris aussi avec cette distance-là, mais faut pas que ça paraisse. Faut que j'aie de l'air le plus possible impliqué émotivement, alors qu'au fond, c'est très cartésien comment c'est écrit. Il faut que je donne l'impression du canard qui a de l'air à flotter et que tout va bien, mais qu'en dessous, les palmes, ils se font aller en maudit. Fait que tout est très chorégraphié, tout est très technique, mais faut pas que ça paraisse. Faut que ce soit l'émotion qui semble l'emporter. Fait que c'est cet équilibre-là qu'il faut que j'essaie de trouver. Fait que non, je ne suis pas perturbé parce que j'écris. Ouais. Au contraire, comme je dis, ça libère de quelque chose.
Ça libère ça. Ouais. Ouais. Moi, plus on dirait qu'on avance dans le temps, plus les possibilités web grossissent, plus Hell.com devient terrifiant.
Ouais. Puis c'est drôle, hein, parce que L.com, je parle du Darknet, dans le fond.
Oui, ben c'est
sans le savoir, sans le savoir, ouais. Parce qu'il est sorti en 2009, ça n'existait pas. Moi, en ce cas-ci, il existait, il n'était pas très connu. Moi, je ne connaissais
pas. On ne savait pas que ça existait.
Darknet. Puis là, il y a du monde qui vient de me voir aujourd'hui et qui me disent « Hey, L.com, t'as écrit sur Darknet, hein? »
Tout
dis, oui,
ça
je
est possible.
Je savais, mais je ne savais pas. Tu sais, c'est ça. Fait que, dans le fond, j'ai compris. C'est pas que j'ai compris, mais je me suis dit... pourquoi ça n'existerait pas?
Ouais, c'est
pourquoi
ça.
Si tu as un fou avec une caméra quelque part, pourquoi que... Puis on le savait déjà, il y avait déjà eu des scandales sur Internet là, que des gens avaient filmé des meurtres. Ouais. C'est bon. Mais moi, j'ai pensé que ça pouvait être organisé. Ouais. Et c'est ça, le Darknet.
Ben,
c'est organisé.
C'est...
Mais ça... Peut-être pas autant que dans Hell.com, mais quand même, il existe.
On peut voir l'extrapolation est pas loin. Là.
Ben, c'est sûr qu'il y a des criminels qui ont intérêt à mener à contrôler ça. Parce qu'il y a du cash à faire. Puis je voulais montrer justement que les vrais boss de Hell.com, dans la fin du roman, c'est ce que je montre, c'est que c'est pas des fous, c'est pas des. C'est des businessmen.
Ouais.
Le gars là, qui rencontre à la fin, là, un des boss, parce qu'il y a plusieurs boss, c'est des actionnaires. Lui, ça ne l'intéresse même pas, ces sites-là. Il va même pas regarder ça. Il trouve ça assez horrible, tout ça. Mais il y a du cash à faire. Puis il y a du cash à faire avec ces fantasmes-là qui existent et anyway. Fait que moi, je propose un service d'attitude. Et cette froideur-là, par rapport à ça, je pense que ça se peut.
Ben
je,
oui,
je pense pas que les je pense pas que les grands criminels sont... Je pense que des hommes d'affaires, justement, qui contrôlent des choses criminelles sans eux-mêmes être des adeptes de ces crimes-là. Mais c'est une business. Puis je voulais montrer qu'effectivement, c'est possible que Internet, le Darknet, pourrait être devenir. Ça en est peut-être une auprès de certaines personnes, puis on ne le sait pas. Il y a sûrement du monde qui font de l'argent avec le Darknet. Là. C'est sûr mais que c'est du monde qui fait de l'argent avec ça.
Possiblement que ça existe déjà.
C'est la preuve que si tu peux l'imaginer, ça existe probablement quelque part.
J'espère que c'est pas. Tu sais, dans mon roman, c'est hyper organisé à travers le monde. Organisé à ce point-là, je suis pas sûr, puis j'y tiens pas. Mais c'est sûr que oui, c'est sûr qu'il y a moyen de d'avoir des sous-groupes, des groupes en dessous. Puis je m'étais informé là, auprès de policiers et auprès de spécialistes en informatique comment aller sur des sites illégaux sans se faire prendre. Là, on m'a parlé de Tor, on m'a parlé de tous ces trucs-là. On m'a dit que, justement, là, je ne m'en rappelle plus tellement, ça fait tellement longtemps, mais que oui, tu peux être les serveurs, ils changent de serveur souvent pour justement que la police
explique
tout ça
à
mon personnage à un moment donné, c'est ça. Aussitôt qu'on l'a trouvé quelque part, on s'en va là, puis il n'est plus là. Il change de place. Souvent pour pas se faire pogner. Puis là, on parle d'il y a 10 ans. C'est sûrement encore
c'est ailleurs,
plus organisé encore. C'est sûrement encore plus difficile à. Puis on m'avait dit, tu sais, Patrick, là, tu peux pas écrire sur Google ou sur Yahoo à l'époque. Peu importe. Tu peux pas écrire. Non, mais tu peux même pas écrire enfant de 10 ans, torturé. Pouf, ça va apparaître. C'est pas vrai, là. T'sais.
La police, ça se peut qu'il débarque chez toi.
Ben là, c'est ça. C'est, il faut que souvent tu reçois des codes dans des images. Le code va être écrit. Tu écris un code, ça de long. Ça veut dire que si tu tombes sur de la torture ou sur de la pornographie juvénile, la pornographie juvénile, on s'entend que c'est pas une fille de 22 ans qui s'est mis des lulus et qui mange un suçon, là. Comme si elle avait 14 ans. On parle de vraie pornographie. C'est organisé. Tu peux pas être tombé là-dessus par hasard. Ça se peut plus, là, ça, là. Il y a quelqu'un qui dit qu'on découvre avec un site. Ah, ben oui, ben je suis tombé là-dessus par hasard. Non. T'as voulu aller là.
T'as cherché activement.
T'as cherché activement, puis tu t'es renseigné, puis t'as. Et c'est ça, moi, qui m'a fait peur.
Ces gens-là,
ils veulent ça.
Juste d'en parler, j'ai froid dans le dos.
Et c'est peut-être mon roman, en fait, qui a fait le plus peur au monde à cause de ça. Les gens venaient me voir, puis ils capotaient en disant. Tu nous as fait réaliser que ça se peut, ça.
C'est pas loin.
10 ans plus tard, on s'en doute plus maintenant, mais à l'époque, il y a des gens qui m'ont dit. Penses-tu vraiment qu'on peut voir des choses de même sur Internet? Mais je disais, pourquoi pas? Je dis, c'est le free-for-all, l'Internet, là. C'est le.
Il y en a.
C'est un buffet, en fait. C'est un buffet, là. Fait qu'il y en a, c'est sûr.
C'est ça.
Tu sais, c'est quoi? C'est Magnota qui avait fait la vidéo qui avait été. Genre, c'était accessible
à beaucoup de monde.
Tout à fait.
Tu pouvais voir ça. Là.
Tout à fait.
C'est terrible. Là. Il existe encore probablement dans une base de données quelque part, ces vidéos-là.
Ah, ben, c'est sûrement. Sûrement qu'il y a quelqu'un qui a ça en ce moment et qui se fait du cash avec ça. Puis le gars qui a tué les musulmans là, en Nouvelle-Zélande, en fait, il faisait un Facebook Live. Là.
Ouais.
Pendant qu'il tuait, il a mis ça sur Facebook
c'est
Live.
C'est ça qui est spécial avec les lives.
C'est assez capoté.
Tu peux pas le contrôler.
Tu peux pas gérer ça. Tu peux pas contrôler ça. C'est instantané.
Et là, c'est rendu qu'on a des tueurs qui spectacularisent leur meurtre.
Ouais.
Et ça, c'est weird dans ta barnouche. Deviens une vedette, peu importe comment, mais deviens une vedette même en tuant du monde. Ça, il y a quelque chose à faire avec ça.
Là,
oui, il y a quelque chose à faire avec ça, c'est clair, parce que. Tu sais, si j'avais écrit Le Vide aujourd'hui, j'écrirais pas de la même manière.
Ouais,
j'avais écrit Hell.com aujourd'hui,
c'est
je ne l'écrirais pas de la même manière. Parce que ça va encore plus loin, là. Il y a moyen. Tu sais, moi, des meurtres live, je pensais pas à ça en écrivant le ça existait pas, là, les trucs live en direct. Là. En tout cas, ça existait peut-être, mais c'était pas très à la mode. Mais aujourd'hui, si quelqu'un faisait Hell.com en film aujourd'hui, puis que ça se passait de nos jours, je pense qu'il faudrait qu'il mette un élément comme ça. Assister live à tel événement, bon, tout ça.
Ouais.
C'est quelque chose que Hell.com récupérerait, c'est sûr. Mais en fait, je l'ai faite. Je pense à ça. Je l'ai faite avec Il y aura des morts. J'en dis pas plus, mais il y a quelque chose, il y aura des morts qui ressemble au Facebook Live.
Qui est le dernier roman qui est paru?
Qui est le dernier roman, ouais. Ouais. Qui ressemble au Facebook Live, là. Qui
ah ouais?
Est... ouais, ouais, c'est vrai. Bon, tu vois, finalement, c'est fait. Check!
Check ouais, c'est ça, checklist.
Ma checklist, c'est ça.
Une question, je suis pas 100% informé sur ce dossier-là, mais je veux quand même voir ton opinion. Il y a eu une poursuite il y a deux semaines pour pornographie juvénile dans une œuvre.
Ouais.
Je suis pas au courant de. J'ai pas lu l'œuvre, j'ai pas lu les passages. Je sais pas à quel point c'est
une version trash d'Hansel et Gretel.
Ouais. C'est une scène de pédophilie. C'est un petit gars ou une petite, je me rappelle plus, qui se fait agresser sexuellement, violer. Ouais. Puis voilà. Mais à la fin, je vous jure que le père, il passe au cash, là. Ouais, ça l'a dit, là. Mm. Mais
c'est pas que ça glorifie
pas le viol, c'est une page sur ça.
Oui.
Tu sais, c'est
non,
pas
non,
comme...
non, non, ça glorifie pas du tout. C'est pas en train de dire, regardez comment c'est cool violer un enfant. C'est très, 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 très graphique. Est-ce que c'est nécessaire que ce soit graphique comme ça? Ça, c'est personnel, comme je disais tantôt. Est-ce que c'est de bon goût ou non? Ça, c'est une autre question. La question n'est pas là. La question n'est pas de savoir si c'est de bon goût ou pas, si c'était nécessaire d'être aussi graphique ou non. La question, c'est un, est-ce que c'est un encouragement? La réponse est non. Puis deux... C'est de la fiction.
Ouais, c'est
puis
ça.
Moi de censurer la fiction, de légiférer sur la fiction, ça me fait peur.
Ouais.
Je sais que le
c'est
code...
C'est une porte qui s'ouvre, là. C'est une boîte de Pandore.
Mais c'est sûr que ça concerne uniquement la pédophilie. Mais malgré tout, je veux dire, en quoi c'est pire de montrer une scène de pédophilie qu'une femme qui se fait torturer, c'est même ça. Si elle a 30 ans. Et moi, je reviens à l'idée que un gars qui lit ça, un gars sain d'esprit qui lit cette scène-là, va pas devenir pédophile. Puis un pédophile qui lit cette scène-là, il est déjà pédophile. Fait que.
Puis il va trouver quelque chose de mieux que ça, là.
Il va trouver quelque chose de mieux que ça ou qu'on va glorifier ça.
C'est ça, exactement. Parce que ça existe, ça, des textes ou des bandes dessinées à saveur pédophile.
En fait, il y a bien pire que ça. Ben, c'est ça l'affaire.
C'est aussi
la
vraie affaire, mais tu sais, peut-être que ce genre de texte ou images-là qui ne sont pas encore la vraie affaire, ça peut être la
mais
porte
oui.
d'entrée.
Pour... Ah non, écoute, même en fiction, il existe pire que ça. Il y a des bandes dessinées européennes, là, que je te jure, des bandes dessinées érotiques, que je te jure qu'on... parce que c'est pas écrit l'âge des personnages, là, mais
ouais,
tu peux facilement
ça.
Croire qu'ils n'ont pas 18 ans, là, mais là, c'est flou. Fait que, puis moi, je dirais pas qui, parce que je veux pas qu'il y ait de plainte, mais j'ai lu des affaires aussi pires que ça. Il y a eu une plainte. Juste ouais, parce qu'il y a eu une plainte. Il y a une femme qui s'est plainte.
Ouais.
Et selon l'article de loi... Alors, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Puis l'article de loi dit que quand c'est pour l'art, en plus, il peut y avoir une exception. Fait que moi, je pense que là, je vais pas faire de pronostic, mais...
Il y a pas vraiment de cas, là.
J'espère qu'on va se servir de ce cas-là pour rendre la loi claire. Il va arriver deux choses. On va rendre la loi claire, puis on va dire, bon, en fiction, puis si c'est pas glorifié, on n'en parle plus, puis on peut pas se plaindre de ça. Ou ça va venir durcir la loi puis la rendre plus dure, puis là, ça va peut-être déborder sur des... C'est ça.
Sur d'autres affaires, c'est ça,
ça
danger.
Fait
un monde
c'est
de
ça
la police passe à travers les œufs puis dit, tu sais, ils vont arrêter
ben,
les auteurs, ça
et là, qui va décider ce qui est... Parce que ça existe déjà, hein, la grossière, ce qu'ils appellent l'obscénité. Tu peux pas écrire des choses obscènes, tu peux pas être diffamatoire. Mais obscénité, c'est large, là.
C'est large.
Fait que moi, quelqu'un peut lire mes romans puis décider que je suis obscène.
Là.
Ben, c'est ça.
Ouais. Ouais.
Fait que moi, c'est ça que j'ai peur. C'est que, ou ça va régler ça une fois pour toutes, ce cas-là, puis j'espère que ça va être ça, puis qu'on va dire ça va faire en fiction, laisser le monde tranquille. Le monde peut faire ce qu'il veut en fiction. C'est pas vrai, anyways. Puis c'est pas un encouragement en plus. Mm-hmm. Ou alors, ça va créer un précédent, puis ça va ouvrir la porte plus large. Et moi, c'est cette partie-là qui fait peur, parce que qui va décider? C'est comme la peine de mort. La peine de mort, si c'était toujours pour des cas d'un gars qui a violé 14 enfants et qui les a tués après, on serait pas très triste que cette personne-là meure. Mais à partir de quel crime et à partir de quel critère... La ligne, elle va être où, là, entre quelqu'un qui mérite la peine de mort et quelqu'un qui la mérite pas? T'as tué 8 personnes, t'as mérite pas. Oh, tu as tué une 9e, ça y est, t'as mérite. Je veux dire, qui va décider ça?
Ouais.
Je trouve que c'est inapplicable. Et en fiction, ça va être pareil. À partir de combien de litres de sang que quelque chose devient insupportable? À partir de combien de meurtres? De combien de cris d'agonie? De combien de minutes de souffrance? Je veux dire, comment qu'on va appliquer ça?
Donc, la ligne est trop floue.
La ligne est trop floue. Et je pense que c'est à cause de ça que ça passera pas.
Ouais.
Mais c'est quand même terrible ce qui se passe là, parce qu'il y a quand même un gars, un auteur là-dedans, qui a été arrêté, qu'on est venu arrêter chez lui à cause qu'il a écrit une scène d'un enfant qui se fait violer dans de la fiction sur un roman de je sais pas combien de pages, puis qui en plus montre que c'est horrible, puis que le père va dire...
Ouais.
C'est terrible de savoir que tu peux venir te faire arrêter chez vous pour ça.
Ben oui.
C'est quand même épouvantable.
Ouais.
Puis ceux qui disent que ben lui, il doit triper, et ça, il fait de la publicité. Non, il trippe pas.
Ben non,
puis je vous garantis qu'il trippe pas. Je connais le milieu, je connais l'éditeur, je connais le gars. Il ne trippe
pas.
Il y a du vendre des livres, mais on s'en fout. Il peut même plus les vendre.
Ils sont retirés. Fait que c'est en ce moment, ce gars-là, il vit un cauchemar. Là. C'est pas le fun pantoute.
Le pire, c'est le titre de l'article, c'était son nom, arrêté pour production et distribution
de pornographie. C'est ça, on
le sait, les gens lisent les grands titres.
Il a l'air de quoi, lui?
Les parents des amis de tes enfants, je sais pas si les enfants...
Il a l'air de quelqu'un qui partage des vidéos, des images, c'est pas ça du tout, ça n'a aucun sens.
Non, non, c'est terrible. Fait que non, non, il n'y a rien de le fun pour ce gars-là en ce moment, puis l'éditeur, il ne trouve pas drôle non plus.
Mais l'éditeur aussi a été arrêté, en fait.
Oui, l'éditeur aussi, il est poursuivi pour avoir publié ça. Fait que non. Moi, je trouve que ça crée un précédent qui peut être dangereux. Là.
C'est fou de se dire que tu sais, un livre comme ça est enlevé des tablettes, alors qu'on peut encore se procurer, par exemple,
le Marquis de Sade
ou Lolita. Pour garder le même Lolita de Nabokov, qui est un livre sur un gars qui trippe sur une petite fille pendant le livre au complet. Puis c'est même pas.
Il n'y a pas de plainte.
Puis c'est quasiment un encouragement. Tu sais, à la fin, ça finit pas. Il y a personne qui est triste.
Parce que c'est pas graphique. C'est le côté graphique. Ouais. Mais tu sais, la dame qui s'est plaint, là, puis les autres qui se plaignent, ça devrait pas exister, ça, cette affaire-là. Ben, qu'est-ce que ça vous fait que ça existe? En quoi ça vous dérange?
Comment vous êtes tombé là-dessus?
Pourquoi t'as acheté ça, premièrement? À quoi tu t'attends? Puis il y a des avertissements, puis il y a tout, là. Mais c'est pas parce que quelque chose qui te dérange existe que ça doit arrêter d'exister, là. Je veux dire, faut accepter de vivre avec le fait qu'il y a des choses qui nous dérangent, avec lesquelles nous ne sommes pas moralement d'accord, puis qu'on doit d'exister. Puis là, si cette dame-là a dit, ben ça peut donner des idées au monde, mais là, il faudrait s'informer. Là, parce que ça marche pas de même, l'esprit humain.
C'est des genres aussi que quand tu t'intéresses à ce genre-là, ben tu vas des fois un petit peu plus loin, puis tu t'intéresses. Tu sais, c'est comme le black metal le plus trash ou le plus violent que tu peux trouver. Personne qui commence à écouter ça du premier coup, mais tu sais, tu commences à faire des quoi de plus ça, puis là,
tu tombes dans un gros band de death metal la première fois que t'écoutes, la première fois que t'entends du double bass drum,
personne
c'est
qui
sur
va
ça.
Aimer ça du premier coup, là.
Non, puis même dans le death metal, il y a des limites, là. À un moment donné, il y a eu des groupes norvégiens de death metal
qui brûlaient des églises.
Là, tu fais attention, là. L'autre, ils se prennent un peu trop au sérieux, puis là, ils sont dangereux. Mais va questionner la part des groupes metal. Moi, j'en ai écouté en masse du metal quand j'étais jeune, puis quand tu parles à Ozzy Osbourne, quand tu parles à Black Sabbath, quand tu parles à... Ils disent, voyons donc, vous nous...
Juste pour rire,
ils nous prenaient pas au sérieux, ces gens-là, ça se peut pas. Là. Moi, je me rappelle, j'ai jamais eu le goût d'aller brûler une église après avoir écouté Black Sabbath. Je trouvais juste ça cool de voir l'équivalent de films d'horreur, mais dans de la musique. Je trouvais ça cool, mais j'ai jamais pris ça au premier degré qu'il faut aller tuer du monde puis sacrifier des vierges, tout ça. Faut faire confiance aux gens aussi, à un moment donné. Puis quelqu'un qui est sain d'esprit va pas virer fou parce qu'il entend... un gars crier « Je fais un pacte à Satan. » Voyons donc, franchement.
Il y a une étude scientifique qui est parue il n'y a pas longtemps. J'ai lu l'article, puis c'était sur les métalleux, justement, puis ça disait que ça rend pas plus violent écouter du métal. Ben là, au contraire, ces gens-là sont plus doux que...
Non, puis souvent, le métal, ceux qui écoutent du métal, c'est souvent des outsiders un peu. C'est des gens, justement, qui se reconnaissaient pas dans les groupes. Cool, pop, fresh.
Il y a un côté geek. Côté
marginal.
Moi, j'étais pas d'un cool à mon école. Fait que ma communauté de métalleux, on avait l'impression justement d'être un peu rebelle en écoutant ça. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans. Il y a vraiment une. On se foutait des modes, on se foutait de tout. Puis c'est comme ça qu'on se donnait de l'importance. C'était pas le côté violent pour nous rendre violents puis qu'on veut se venger du monde. Là. C'est pas ça. Là. C'était pas ça l'idée pantoute. Là.
Moi, il y a un cas. Qui me refait questionner toute cette affaire-là, c'est le cas de Clockwork Orange aussi de Stanley Kubrick, où que lui-même a décidé de retirer son film des cinémas parce qu'il y avait une vague de criminalités qui imitait ses crimes.
C'est-à-dire qu'il y avait des gens, il y avait des criminels qui se déguisaient comme les personnages de Clockwork Orange.
Ouais.
Mais ces gens-là, est-ce qu'ils jouaient aux échecs chez eux avant le film, là? Est-ce qu'ils faisaient du spirographe, là? Puis des dessins de licorne, là? Je pense pas.
Ouais.
C'est que là, ils ont trouvé comme une espèce de symboles pour se trouver cool entre eux autres, mais moi, je pense que ces gens-là étaient déjà des criminels d'avance. Là,
clairement, ils n'ont pas compris l'œuvre.
Mais c'est ça. Mais oui, c'est troublant. Puis Clockwork Orange est un cas extrême. Je suis d'accord que c'est un cas extrême parce que c'est du point de vue du personnage. Puis le personnage, ce qu'il fait, il trouve ça cool.
Ouais.
Puis à la fin, quand il est guéri entre guillemets, le monde devient pire que lui. Fait que là, tu deviens quasiment... Tu as quasiment pitié de ce criminel-là. C'est un film extrêmement tordu, puis moi, c'est un de mes films préférés à vie, parce que justement, ce côté tordu-là est intéressant à examiner, puis bon. Mais évidemment que si j'étais Kubrick, puis j'avais vu mettons là, j'ai beau dire qu'un livre peut pas inspirer des gens si t'es pas déjà un peu fucké. Évidemment que si la police m'appelait et me disait « Monsieur Sénécal, revenez nous rejoindre à telle adresse, il y a quelque chose qui va vous intéresser. » Puis j'arrive là pour me dire « C'est un psychopathe qu'on a trouvé un tueur en série. » Puis regardez son appartement. Puis là, il y a des pages de mes livres collées sur les murs. Puis qu'il y a une photo de moi avec un siège qui brûle en dessous. Ça doit être bien traumatisant. Ça doit être très traumatisant. Puis je ne sais pas comment je vivrais avec ça.
Ouais.
Fait que je peux comprendre que Kubrick a fait ça m'achale un peu là.
Ouais.
Mais si on essaie d'être complètement objectif, je veux dire,
si on commence ça,
on ne pourra plus rien faire parce que tu vas toujours inspirer du monde. Ouais. Mais quand ça t'affecte dans ton corps, quand tu sais là, qu'il y a un lien direct avec un psychopathe qui a aimé tes livres, puis il y en a sûrement du monde tordu qui aime mes livres pour les mauvaises raisons, mais je sais pas c'est qui, fait que ça va bien dans ce temps-là. Mais si je faisais face à ça, j'espère que ça m'arrivera pas, parce que ça doit te remettre en question en tabarnouche. Ouais. C'est sûr, par la force des choses.
Il y a eu, il y avait une vague de personnes qui commettaient des crimes déguisés en clown pour attirer les enfants.
Ouais.
Comme dans ça de Stephen King. Là.
Ça n'a pas duré longtemps. Hein?
Ça n'a pas duré longtemps.
Non, c'est ça. C'est des, je pense pas que ça aurait duré longtemps non plus en Grande-Bretagne, le côté on se déguise comme tout en blanc, là, avec des jackstraps puis le chapeau de forme. Puis bon.
Ouais.
Mais même. Et c'est là que tu vois que c'est un effet mode. Même les criminels ont des psychopathes peuvent subir une certaine mode.
Ouais.
Mais je en fait, pas des psychopathes. Les psychopathes, c'est faute des modes, là, mais des petits criminels, là, des petits cons. Est-ce que ces gens-là, qui étaient en clown, auraient fait quelque chose quand même sans avoir vu ça?
Probablement.
Je pense que oui.
Ce serait pas d'exemple clown, il aurait pris autre chose.
Ben c'est ça. Je veux dire, si c'est ce truc-là qui les a rendus fous, je veux dire, n'importe quoi d'autre aurait pu arriver. Là. Je veux dire, n'importe quel autre film, n'importe quel. Ils ont vu le mauvais film au mauvais moment, mais sinon, ils n'auraient vu un autre. Ils ont lu le mauvais livre au mauvais moment, mais ils n'auraient lu un autre. Mais encore là, je le répète, si ça t'arrive, si comme cinéaste, comme auteur, tu le vis, tu peux pas séparer les motifs de les motifs de l'emporter sur le rationnel, là. Ça doit être tough. Ça doit te remettre en question. Là. T'es un être humain, là. Fait que tu peux pas être indifférent à ça, là.
Tu sais, tu parlais en tout début, là, ça nous permet de revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait que les œuvres, que la littérature affecte ou l'œuvre, les arts affectent pas nécessairement les gens.
On convainc les convaincus.
Ouais. C'est ça, mais admettons, si on prend, tu sais, les souffrances du jeune Werther quand c'est sorti, puis qu'il y avait il retrouvait des jeunes hommes suicidés avec, tu sais, les poches à l'extérieur comme le personnage. Ce livre-là.
Ça devait être déjà des gens très romantiques.
Des gens romantiques.
Très. Mais, la mal de vie.
Ouais, mais... c'est ça, exact. Sauf que est-ce que ces gens-là auraient pu éviter ce sort-là, s'il n'était pas tombé sur un livre comme celui-là?
Le suicide, c'est un cas très particulier. Ça, ma blonde m'en parle souvent parce qu'elle est psychologue. Puis elle dit à chaque fois qu'on parle du suicide, même pour le dénoncer, il y a une vague de suicide.
Ouais, c'est ça.
Le suicide monte. Juste le fait d'en parler. Puis en même temps, elle dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'en parle pas, on ne fait pas de dénoncer. Parce qu'il y a peut-être plein de monde qui se serait suicidé aussi, mais qui ne l'ont pas fait grâce à ça. Mais ça, on ne le sait pas.
Ouais. On n'a pas ces statistiques-là.
Les statistiques sont, c'est ça. Fait que moi, je me rappelle quand j'ai écrit le vide, il y a une... Puis oui, il faut être responsable quand même comme auteur. C'est là que je vais en venir. Là. C'est pas parce que tu es un auteur qui fait de la fiction que tu dois te déresponsabiliser. C'est-à-dire que moi, tout ce qu'il y a dans mes livres, je suis capable de justifier pourquoi je l'ai fait. C'est ça qui est important. Dans le vide, il y a une secte, pas une secte, mais le personnage principal amène les gens amène des groupes de gens à dire le suicide est la solution, puis il va amener les gens à se suicider. Et je me suis dit, c'est touché, ça, parce qu'il est très convaincant, en plus. Puis je sais que quelqu'un de déprimé pourrait lire mon livre et dire, ben, coudonc, il a peut-être raison. Alors, pour moi, c'était clair qu'il fallait que je montre quand même à la fin du roman, quelqu'un qui lit le roman jusqu'au bout, qui comprenne que le suicide n'est pas la solution. Puis moi, je pense pas que c'est le livre. Faut que je sois fidèle à moi-même aussi, je pense pas. Si t'es un auteur, puis que t'écris de façon très sérieuse et très convaincue que la vie vaut pas la peine, qu'on devrait tous se suicider, ben, sois conséquent, puis va te suicider. Tu comprends? Je veux dire, c'est pour ça, moi, je me méfie trop des auteurs. Tu sais, tu peux être un auteur qui dit l'humanité est assez merdique, tout ça, mais bon, en même temps, je vis quand même puis je trouve mon compte. Mais si tu écris un roman où nihiliste au point que ça semble dire la seule issue, c'est de mourir, ben, puis après ça, tu vas dans des cocktails heureux pour.
5 à 7 pour vendre ton livre.
Vendre ton livre, qui dit tuez-vous toute la gang. Je trouve pas ça très conséquent. Il y a des artistes qui ont été conséquents. Kurt Cobain a été conséquent. C'est triste, c'est une tragédie.
Tristement conséquent.
Mais quand tu regardes son œuvre puis que tu regardes ce qu'il a fait, tu fais ben.
C'est pas surprenant.
Il y avait des signaux.
Ouais.
Même le chanteur Les Colocs.
Dédé Fortin. Ouais.
Dédé Fortin, si t'écoutes d'or novembre, la dernière tune d'or novembre, tabarnouche, ça, il file pas le gars, là. Ouais. Ça va pas bien, là. Fait que, tu sais. Alors, moi, qui aime la vie malgré tout, je veux bien faire un roman qui montre que la vie, les gens sont décevants, des fois, tout ça. Mais je voulais pas qu'à la fin du vide, je donne l'impression que le suicide est une solution. Ça, ouais. Parce que je n'y crois pas. Je pense pas que c'est ça. Puis même si tu fais de la fiction, on parle de soi, hein, on revient à ce qu'on disait tantôt, on parle quand même de soi, de ses valeurs, de ses convictions, puis je ferai pas un livre, moi, qui va dire que le suicide est une bonne idée. Tu peux faire un livre sur un personnage qui, lui, dit que c'est une bonne idée. Mais là, tu parles d'un personnage. Mmh. Mais le vide parle du Québec au complet, parle d'une société et donne une... Moi, je parle de la société. Alors, si je dis que la solution de la société, c'est le suicide, ben là, faut que j'aille au bout de mon idée puis que je le fasse, et je le ferai pas, parce que j'aime la vie, malgré tout. Mmh. Alors, fallait que ça ressorte un peu aussi. Alors, c'est pour ça qu'à la fin... Du vide, il y a une lueur d'espoir quand même. Puis moi, il y a des gens qui ont lu le vide qui m'ont dit, des jeunes surtout de 20 quelques années qui m'ont dit, moi j'ai eu le vide, là, j'étais dans une période, là, j'étais en hostie après l'humanité, ça allait mal, puis fuck the world, tout ça. Mm. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai dû lire ce roman-là à ce moment-là, ça n'a pas dû t'aider. Il a fait non, ça m'a donné une drive, parce que la colère que je ressentais, je voyais qu'il y avait quelqu'un qui avait fait quelque chose avec cette colère-là. Il dit, l'a canalisé dans un roman, dans la fiction, t'as construit avec ta rage, t'as construit quelque chose, puis ça m'a donné le goût de faire la même affaire. Ça, je trouve ça intéressant. Puis faire la même affaire, c'est pas d'aller tuer du monde, là. C'est de. Tu sais, il y en a un qui me disait, moi, je suis retourné aux études, moi, je me suis trouvé. En tout cas, il y avait des beaux témoignages. Bon, évidemment, je pense pas que c'est une bonne idée, en général, des gens déprimés qui lisent ça, ça va peut-être pas les aider, mais il y en a que ça les a aidés. Puis si tu lis le roman jusqu'au bout, je n'encourage pas le suicide. Je fais pas ça. Le romantisme allemand était quelque chose où le suicide était une espèce de code littéraire extrêmement à la mode, le mal de vivre et tout ça. Et est-ce que les auteurs, c'était des pauses littéraires où ils croyaient vraiment? Je ne sais pas. Il y en a que ça devait être vrai, il y en a que ça devait être par pause littéraire. Puis les gens, en plus, étaient moins informés qu'aujourd'hui. Alors oui, peut-être que ces livres-là ont... Mais on s'entend que quelqu'un qui lisait Werther, c'est ça? Je pense que c'était des gens quand même qui avaient des souffrances en eux. Je ne pense pas que quelqu'un qui avait la joie de vivre, qui lit ça, va vouloir se suicider après.
Ouais.
Moi, je pense qu'on convainc souvent des convaincus. Je pense qu'il y a des exceptions. Je pense que tu peux lire quelque chose que tu fais « Ah, j'avais jamais pensé à ça. » Tout ça existe, là. Mais je pense pas qu'un film ou un livre va changer une société. Je pense pas... ça serait le fun, là, mais c'est pas grave. Je veux dire, on fait pas ça non plus. On fait ça parce qu'on a le besoin de l'écrire, puis il y a des gens qui vont le lire parce qu'à ce moment-là, ils ont besoin de lire ça. Ça peut quand même les faire réfléchir et évoluer un peu. Mais si on écrit à chaque fois quelque chose en disant « J'espère que la société va changer grâce à mon livre », c'est présomptueux, hein, tabarnouche, c'est prétentieux, en maudit.
Tout à fait.
Patrick Sénécal, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci, c'était super intéressant. Allez,
c'est pas le fun.
Ça a passé de même. C'était vraiment cool.
Puis sinon, tu travailles en ce moment
sur un projet de roman qui va sortir à l'automne prochain, si tout va bien. J'ai pas le titre encore, pas vous le dire. Et ça parle de ma peur de la mort. Moi, je suis un gars qui a peur de la mort et le sujet va être.
Puis est-ce qu'il y a d'autres projets.
Je peux pas en parler.
Il y en a un autre. Cinéma ou
télévision. Il y a quelque chose dans l'air, mais ça regarde bien, mais je peux pas en parler encore. Mais ça regarde bien. C'est ce monde-là, c'est tellement incertain que je
peux
pas.
Il
va y avoir des fans qui vont être contents juste d'entendre ça.
Puis il y a la BD Alice qui va sortir en 2020.
Une
BD sur Alice. Grosse BD de 200 pages à peu près.
Oh my God.
Parce que Alice avait pensé proche d'être adaptée, finalement, c'était pas possible.
C'est tombé là. Fait qu'on va faire une BD à la place. Là, on n'aura pas de limite.
La BD permet de.
Il va être un des premiers à l'acheter, c'est sûr.
Super. Bien hâte de voir ça, moi aussi.
Merci beaucoup.
Merci à vous autres. Merci.